11h09, dimanche 5 juillet 2026. Mesdames, messieurs, c'est un honneur de vous savoir nombreux à l'écoute de Radio Mandeléo pour l'émission Sport pour tous de ce jour. Joseph Tizungo assure la mise en onde devant ce micro pour la présentation expédie Kialou. Merci de vous savoir à l'écoute dans la ville de Bukavu sur 88.8, dans les territoires sur 91.7, partout en RDC et au monde, à travers Internet en tapant le www.radiomandeleo.org. Le sommaire de l'émission de ce jour. La République démocratique du Congo a été battue par la Côte d'Ivoire 51-96 samedi 4 juillet, c'était donc hier, au stadium Marius Ndiaye de Dakar au Sénégal, lors de l'actuelle fenêtre des éliminatoires africaines de la Coupe du Monde FIFA, ou disons FIBA 2027, déjà qualifiés pour le deuxième tour des éliminatoires après leur succès contre Madagascar 82-62, les Léopards. Basketball, seniors, messieurs de la RDC, enregistrent leur deuxième défaite face aux éléphants dans cette campagne après celle concédée en février dernier 59-96. La RDC clôturera son parcours ce dimanche 5 juillet avec un match contre le Sénégal. Il faut donc rappeler que les Léopards sont déjà qualifiés pour l'étape suivante, mais ils ont un match à disputer face au Sénégal ce dimanche pour l'honneur et rien que l'honneur. Changeant de discipline, la RD Congo s'est arrêtée en 16e des finales de la Coupe du Monde 2026. Les Léopards ont été battus par l'Angleterre sur le score de 2-1 mercredi au stade d'Atlanta après avoir pourtant ouvert le score très tôt par Brian Chipenga. Entre déception et surtout optimisme, au-delà du score, cette Coupe du Monde restera une réussite pour la RDC 52 ans après sa dernière apparition sur la scène mondiale. Les Léopards ont non seulement retrouvé l'élite du football international, mais ils ont également franchi un cap en atteignant la phase à élimination directe. Ils ont marqué un premier but, gagné un premier match, joué une étape à élimination directe, bilan jugé positif, mais la projection est faite désormais pour la Coupe d'Afrique des Nations. Quelle évaluation faire du parcours de la République démocratique du Congo en cette Coupe du Monde? Nous y reviendrons en profondeur avec des analystes dans ce studio. Cette Coupe du Monde se poursuit donc avec l'étape des quarts des finales en ligne de mire, mais les Africains sont tombés en 16e des finales au-delà de la RDC. La Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Cap-Vert ont quitté la compétition. L'Afrique reste représentée seulement par l'Égypte et le Maroc. La Coupe du Monde se poursuit donc aujourd'hui avec des grandes affiches, notamment celle qui va opposer la Norvège au Brésil. Très chers auditeurs, Sport pour tous, le décor est planté tout en rappelant qu'au niveau local, en ce qui concerne le basketball, la phase de 6 a déjà démarré. Nous reviendrons sur le match qui a opposé, mais malheureusement qui ne s'est pas terminé, le BC Mandeléo au BC Caviar, hier au stadium de l'ISP Bukavu. Nous sommes dans la ville de Bukavu. Très chers auditeurs, le bateau est prêt, préparez-vous également. Grande 42. Sur 40. Très chers auditeurs, merci beaucoup pour l'attention soutenue. Nous vous souhaitons encore un excellent dimanche. Vous nous captez partout dans la ville de Bukavu. Vous nous écoutez également sur Internet. Nous l'avons dit dans notre introduction. Merci infiniment pour votre attention soutenue. Nous allons donc démarrer cette émission en rendant hommage à une auditrice fervente et particulière qui a participé à la vie de cette émission pendant plusieurs années, qui a été à l'écoute de cette émission pendant plusieurs années, mais qui a quitté la terre des hommes à partir du lundi 30 juin dernier. C'est avec « Je dois partir » de Emin Kanou que nous lui rendrons donc hommage aujourd'hui dans l'émission de ce jour. Il s'agit donc de Madame Maman Petronie Kérouissi Boroto, qui est la mère à notre confrère héritier Boroto, qui nous a quittés dans la soirée du lundi dernier. C'était donc le lundi plutôt 29 juin 2026. Elle est décédée à Goma, où elle était pour une période de soins. Pendant sa vie, elle a consacré son temps à aimer Dieu, à servir Dieu, mais en dépit de toutes ses charges spirituelles et même les charges professionnelles, elle a été à l'écoute de Radio Mendeleo et surtout de l'émission Sport pour tous. À travers donc Emin Kanou, nous allons lui rendre hommage ce dimanche 5 juillet 2026. Elle a été donc enterrée le vendredi dernier au cimetière familial de Tchikera, après pratiquement 5 jours de deuil à Bukavu. Emin Kanou, à l'instant.
Cette contrée lointaine que j'ignore encore, là où il y a la paix sans peine, mais pas avec son corps. Il y a une louange qui ne se tint avec les anges en adorant. Je dois partir dans cette contrée lointaine que j'ignore encore, là où il y a la paix sans peine, mais pas avec ce corps. Il y a une louange qui ne s'éteint avec les anges en adorant. Et ce jour-là,
la direction de Radio Mendeleo, l'ensemble des membres du personnel et tous les collaborateurs de la radio ont appris avec une profonde tristesse le décès de Madame Kérouissi Moussimoa Mama Boroto, mère de Monsieur héritier Boroto, chef de programme information de Radio Mendeleo, survenu le lundi 29 juin 2026 à Goma. En cette douloureuse circonstance et à la suite de son inhumation intervenue vendredi 3 juillet au cimetière familial de Tchikera dans la commune de Bagira, nous tenons à exprimer à notre collègue héritier Boroto, à sa famille biologique ainsi qu'à tous ses proches, nos sincères condoléances et notre profonde compassion. Nous partageons votre peine et vous assurons de notre soutien fraternel durant cette épreuve. Puisse le souvenir de votre chère maman vous apporter réconfort et courage et que son âme repose en paix. Fête à Bukavu le 3 juillet 2026 pour Radio Mendeleo. Thaïs Bakula, directeur, signant ce communiqué nécrologique. Donc nous nous rendons tout droit dans la ligne de ce communiqué pour témoigner au nom également de l'émission Sport pour tous notre compassion à toute la famille Boroto, à Héritier Boroto, à Pascal Boroto, Thierry Boroto, Aline Boroto, Alice Boroto, Madame Yvine Boucher, à tout le monde, à toute la famille, notre compassion, et que l'âme de maman repose en paix. Les participants à cette émission, nous recevons Amani Mandeleo, analyste sportif et secrétaire adjoint du FC Tiriri Sport. Amani, bonjour et bienvenue.
Bonjour cher Espedi, bonjour à tous les condobattés déjà au studio. Encore une fois, toutes nos condoléances au président Boroto. Certes que c'est une perte, parce que pour le moment, ce n'est pas chose facile, mais nous espérons que notre Dieu, qui a voulu que ce soit ainsi, va devoir combler ce vide.
Merci beaucoup. Nous recevons également Exaucé Tchoubac, analyste. Bonjour et bienvenue.
Bonjour Expedi, bonjour à tous les auditeurs des radios Mandeleo. Je tiens aussi à présenter mes sincères condoléances à toute la famille du président héritier Boroto pour cette grande perte. Quand il perd, c'est tout Mandeleo qui perd, c'est sport pour tous qui perd, c'est nous qui perdons. Et donc que la terre de nos ancêtres lui soit vraiment douce.
Nous recevons également Arka Tibonga, bonjour et bienvenue.
Bonjour Expedi, bonjour à tous les milliers d'auditeurs et auditrices de Radio Mandeleo, plus particulièrement les amoureux de cette émission Sport pour tous. Je tiens également à présenter encore une fois au président héritier Boroto mes sincères condoléances pour tout ce qui lui est arrivé. J'espère qu'elle a... On espère que notre maman repose déjà en paix. Et mes condoléances le plus sincères encore une fois à toute la grande famille Boroto.
Merci beaucoup. Bendy Sefou, analyste, bonjour et bienvenue.
Bien, bonjour à vous, Expedi. Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de la radio Mandeleo. Et à l'instar de tous mes prédécesseurs, nous adressons également nos pensées les plus pieuses à l'endroit de la famille du président Boroto.
Merci donc à vous, très chers auditeurs. Cette émission, nous l'entamons avec la balle orange, avec une phase de 6 qui a démarré dans la ville de Bukavu. Hier, déjà samedi, il y avait une affiche alléchante qui opposait le BC Kavia au BC Mandeleo. Cette rencontre n'a pas connu de fin normale. Elle a été interrompue à la mi-temps pour cause d'obscurité. Après, bien évidemment, la coupure d'électricité, il était donc quasi impossible de poursuivre la rencontre dans une infrastructure qui était obscure, à l'occurrence donc le stadium de l'ISP Bukavu. Donc il y a eu coupure d'électricité après, donc il était compliqué de poursuivre le match alors que les deux équipes étaient à égalité au score 42-42, c'était le score à la mi-temps. Voilà, donc la rencontre a été interrompue et là a été âprement disputée entre le 12 acteurs, disons, les 12 acteurs du démarrage de la rencontre. Mais bon, avec cette circonstance, la rencontre a été interrompue. Nous donnons parole à Exaucé. Exaucé, quelle analyse vous faites d'entrée des jeux de cet entame de la phase de 6 entre les deux équipes Mandeleo et Kavia?
Voilà, c'était chaud les débuts de ces matchs, parce que on a senti tout de suite que les deux équipes nourrissaient une grande ambition de gagner ces matchs, surtout avec l'entrée triomphale, je dirais, de Mandeleo qui a tout de suite poussé et mettre plusieurs points. Et après, Kavier qui était en train de se chercher petit à petit, qui est revenu dans le match, notamment grâce à des individualités qui sont dans cette équipe. Et après, c'est devenu très chaud, notamment avec des décisions arbitrales contestées. On continue et on continuera peut-être toujours d'en parler. Les niveaux des arbitres, on les remet tous les temps en question, et on le disait, c'est depuis plusieurs années qu'on le dit, ça mérite peut-être un recyclage à ce niveau-là, parce que quand vous avez un match d'une telle envergure, mais c'est l'arbitre qui veut être une star à la place des athlètes, c'est vraiment inconcevable. Hier, il y a eu beaucoup d'arrêts de jeu dus aux décisions arbitrales contestées. Dans la plupart des cas, c'était dans les cas Mandeleo. Donc, mais la rencontre en soi a été quand même magnifique. On a senti des joueurs vraiment motivés, que ce soit du côté de Mandeleo, que ce soit du côté des Kavia. Deux équipes d'ailleurs qui, je peux le dire, ils jouent les titres cette saison. Donc, Kavia avec des individualités, comme je le disais, les jeunes Jordan, qui est là et qui fait un très bon boulot. Il est en train de vouloir me faire croire que voilà, la taille n'est pas d'une grande importance dans le basket. Pourtant, c'est le cas. C'est lui peut-être qui était le plus petit en termes de taille sur les terrains, mais c'était vraiment bénéfique pour Caviar parce que ils ont bénéficié des plusieurs fautes grâce à lui justement, et ils ont réussi à mettre plusieurs points, ce qui a mis également cette équipe de Mandelo en difficulté. Mais le score peut témoigner l'intensité qui était dans le match, 42-42 à la mi-temps. On peut dire qu'il n'y avait pas quand même une nette domination d'un côté. Je peux dire les deux équipes s'évaluaient très bien.
Nous évoquons également les autres résultats. Il faut dire que les Hirondelles ont perdu devant Caviar Junior sur le score de 77-80, avec pour MVP de ce match Anthony Tambwe, et pour le premier match The Revolution s'est imposé devant le BC Keba sur le score de 57-52. Baraka Rugamika a été désigné Most Valuable Player de cette rencontre, auteur d'une prestation aussi impressionnante. Caviar, Mandeleo, ces deux équipes qui n'ont pas donc réussi à se départager au terme d'une première étape de ce match, c'est-à-dire une première mi-temps. Arka Tibonga, certes, le score témoigne que la rivalité a été concrète sur le terrain, mais au vu de ce que vous avez remarqué sur le terrain, quelle image avez-vous de cette étape de 6 et surtout quelle suite vous entrevoyez?
L'image que moi je me fais de cette étape de 6, c'est peut-être l'image d'un championnat qui n'a pas, j'ai envie de dire, progressé en termes de compétitivité, parce que à cette étape de la compétition, on devait s'attendre peut-être à plus que ce qu'on a vu hier. Parce qu'on parle quand même des équipes qui sont capables de jouer les top 3 dans ces championnats. On parle de Caviar et Mandeleo. Mais malheureusement, c'est que moi, personnellement, j'ai vu sur le parquet de l'ISP hier, c'est à l'image de ce qu'on a vu au début de la saison. Donc, il y a qui est peut-être la seule différence, c'est qu'il y a un public qui continue à grandir. Il y a des gens qui continuent à mûrir l'envie de venir au stade et suivre les différents matchs. Mais côté performance des parts et d'autres, c'était très moyen. Quand on regarde l'effectif également, c'est à l'image bien sûr de la performance produite sur les parquets. Je me dis qu'il y a encore, pardon.
Pas suivi les matchs.
Je me dis qu'il y a encore. Oui, c'est ma façon de voir les choses. Mais personnellement, je me dis qu'il y a encore beaucoup de choses à faire de part et d'autre. Parce que moi, personnellement, j'attendais par exemple les Mandeleo capables de rouler sur Caviar. Ça n'a pas été le cas. On a vu que malgré le fait qu'il y ait d'un côté Mandeleo, on devait miser sur son expérience, où il y avait également des noms qui ont une petite histoire, j'ai envie de dire, dans les basketball, mais ce n'était pas le cas. Côté Caviar également, on a vu que la jeunesse n'a pas répondu également présent tel qu'on on l'aurait peut-être souhaité ou l'aurait peut-être attendu depuis le début de cette rencontre. Moi, je me dis que il y a encore beaucoup de choses à faire dans les rats de nos équipes.
42, parce 42, que quand, tu dis qu'ils n'ont pas répondu présent.
Pour moi, ce n'était que du 50-50. Que ce soit côté Mandeleo, que ce soit côté à Caviar, il n'y a pas une équipe qui m'a emballé. C'est en ce sens que moi je me dis que de part et d'autre, il y a encore beaucoup de choses à faire. Parce que quand on regarde, on parle quand même d'une phase de 6. On parle quand même de deux équipes qui peuvent être même des prétendants au titre. Au départ, bien sûr. Parce que quand on regarde cette saison, Mandeleo et Caviar, on les appellerait à des équipes qui sont capables d'aller jouer les troubles faits, que ce soit pour Amibé, que ce soit pour Kabono qui s'impose depuis le début de la saison. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Malheureusement, on a vu qu'on avait affaire à des équipes qui s'évalent presque et qui ont encore beaucoup de choses à faire. Dire que tout est parfait à cette étape de la compétition, avec ce qu'on a fait, c'est un grand match, peut-être à votre avis et à votre façon de voir les choses. Mais pour moi, je n'ai pas l'impression que ça a été pour moi un grand match. Parce que j'attendais grand chose, que ce soit du côté Caviar, que ce soit du côté Mandeleo.
Bandi, grand ou petit match?
Non, je ne sais vraiment pas sur base de quoi que Arcade a analysé ces matchs comme ça. J'étais suspendu à ses livres et j'attendais qu'il nous fournisse des arguments pour les titres. Mais forcément, nous sommes de constater qu'il dit que ça n'a pas été un match à la hauteur de ses attentes sans nous dire pourquoi. Par contre, moi, je vais vous dire pourquoi ce match a été intéressant. Nous commençons par un Maendeleo qui débute la rencontre pied plancher et qui enchaîne des paniers. Et on se dit peut-être que Maendeleo va survoler cette rencontre, Maendeleo va marcher sur caviar. Mais il y a, c'était sans compter sur les petits Jordan Bissimwa avec ses lieutenants qui ont su remettre la tête à l'endroit et qui sont revenus, contre toute attente, qui sont revenus dans la rencontre et qui ont enchaîné des paniers, ce qui nous a offert un match plutôt spectaculaire. Deux équipes qui s'est rendues coup pour coup, deux équipes qui étaient au mano à mano jusqu'à ce qu'il y ait interruption de l'électricité. Mais pour moi, en tout cas, ça a été un match qui a tenu toutes ses promesses. C'est des paniers spectaculaires, c'est des gestes techniques, c'est des dribbles, c'est des drives qui nous ont fait s'élever. Donc, je ne sais vraiment pas comment Arcade a suivi ces matchs, mais ça a été un match très intéressant. D'ailleurs, à l'image de la dernière rencontre de la phase classique qui avait opposé ces deux équipes, où Caviar avait pris les dessus sur Maendeleo sur un score de 60 à 69. Mais malgré cette différence des 4 paniers et demi, ça a été un match très intéressant, très palpitant, très beau à voir pour la phase classique, même hier pour cette phase des 6.
Moi, à l'image du débit de cette rencontre, pour moi, c'est match décevant. On peut tout dire, c'est match très décevant. Parce que quand on regarde le débit, on s'est dit que, avec l'expérience de Maendeleo, Maendeleo est capable de marcher sur caviar. Je pense que si Benji a suivi les matchs, dans les 10 premières minutes, tu es d'accord, dans les premiers quarts, bien sûr, tu es d'accord avec moi, que peut-être Maendeleo va marcher sur caviar. Mais ce qu'ils font en revanche, ça montre également non seulement les niveaux de l'effectif, mais aussi c'est à l'image également de toute l'équipe de Maendeleo cette saison. Parce qu'ils n'ont pas su profiter ni de l'expérience qu'ils ont, ni de la grandeur du nom de Maendeleo pour s'imposer dans cette rencontre. Il a prévu que les matchs sont suspendus au troisième quarta, les scores étaient 42 de part et d'autre. Mais moi, j'attendais grand chose de la part de cette équipe de Maendeleo. Parce que quand on parle de Maendeleo, c'est un show sport. On parle d'une équipe qui est capable d'aller chercher le titre à Les Babouk. Mais malheureusement, quand vous voyez ce qu'ils produisent, même face à une équipe comme Caviar, que je ne sous-estime pas, mais côté Caviar, on sait tout ce qui s'y passe. On sait qu'il manque beaucoup de choses, que ce soit sur les bas des touches, que ce soit côté effectif, où malheureusement, il y a une présidente qui donne tout. Mais l'image de ce que produit l'équipe sur les parquets, ce n'est pas à l'image de ce que, par exemple, Mme Sylvie donne côté Caviar. C'est là que je me dis que moi, personnellement, en tant que journaliste, téléspectateur, je suis resté sur ma soif et j'attendais encore grand-chose d'une part ou d'une autre parce qu'on parle quand même déjà de la phase des 6.
Merci beaucoup. Donc, nous attendons la suite de la compétition pour avoir le réel niveau des uns et des autres et avoir une image bien précise de ce que sera le championnat de l'entente urbaine de basketball de Bukavu pour l'édition sportive 2025-2026. Espérons que les spectateurs seront nombreux au stadium de l'ISP Bukavu pour supporter les différentes équipes pour assister au rendez-vous sportif. Question d'encourager les athlètes, question également d'encourager les dirigeants ou disons les acteurs qui contribuent à la vie des équipes qui prennent part à ce championnat. Il faut dire que ce dimanche 5 juillet, le BCA 4C affronte donc le Bessoranda Full. Le calendrier prévoit ce match à partir de 11h. Nous espérons que le match a déjà démarré. C'est au stadium de Vamaru. Le BCC Kings retrouve à 13h le BC Kavbono. Et en fin de journée, Benji, place à la confrontation entre l'ASB Amibek et le BC Bukavu United.
Oui, un très gros match. Bukavu United qui est pour moi l'équipe révélation cette saison, qui a fait tomber Maendeleo. Pour moi, Maendeleo, c'était l'équipe intouchable cette saison, mais cette équipe du BC United avait su, arme à la main, avait su faire tomber cette équipe de Maendeleo. Et moi, je m'attends à un match amplement disputé aujourd'hui, ce soir, du côté du stadium de Vamaro, entre cette belle, jeune et vaillante équipe du BC United et cette équipe du BC Amibek plus expérimentée. Et qui s'est adjugé les services des Bwanga Kasunguziba, c'est désormais officiel et il va faire partie de l'effectif pour cette phase des 6. Bref, je m'attends vraiment à un très bon match qui sera disputé. C'est vrai, les faveurs du pronostic vont à l'endroit de l'ASP Amibek, mais attention, gare aux surprises.
Gare aux surprises, nous attendons voir de plus près cette prestation prévue au stadium de Vamaro l'après-midi de ce jour. Nous quittons l'étape urbaine pour l'étape internationale avec la RDC qui a été battue par la Côte d'Ivoire 51-94 samedi au stadium Marius Ndiaye de Dakar au Sénégal lors de l'actuelle fenêtre des éliminatoires africaines de la Coupe du Monde FIBA 2027, déjà qualifiés pour le deuxième tour des éliminatoires après leur succès contre Madagascar 82-62. Les Léopards enregistrent leur deuxième défaite face aux éléphants dans cette campagne après celle concédée en février dernier 59-96. La RDC clôturera son parcours aujourd'hui dimanche 5 juillet avec un match contre le Sénégal. Benji, une fois de plus, la RDC tombe face aux éléphants.
Oui, la RDC tombe en ayant proposé un piètre niveau, voilà. Et pour moi, j'ai été peut-être emballé pour les premiers matchs face au Madagascar où nous avons produit du beau jeu, où nous avons été très physiques, nous avons été là au rebond, nous avons été là au contact physique, nous avons également su enchaîner des paniers, mais pour ces matchs-ci, nous avons vraiment été minables, nous avons été catastrophiques du début jusqu'à la fin. À un moment donné, on avait l'impression que c'était des gars qui ne voulaient pas jouer, qui avaient abdiqué pendant qu'il y avait encore beaucoup de temps à jouer. Et je pense que les staffs techniques, chapeautés par les coachs, les Français, Michel Perrin, a du pain sur la planche pour d'abord arriver à redresser cette équipe, arriver à remettre les pendules à l'heure et aujourd'hui affronter l'une des meilleures, si ce n'est la meilleure équipe de basket en Afrique, à l'occurrence les Sénégal, qui est une très 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 grande équipe, qui a d'ailleurs remporté la dernière édition de l'Afro Basket. Donc pour moi, ce n'est que logique, vu au regard de cet effectif, au regard de toute la complaisance qui a été faite dans la sélection. On n'aura de cesse de les dire, il y a plusieurs absences inconcevables, il y a plusieurs présences inadmissibles, on ne sait pas c'est sur base de quoi.
Vous contestez quelle présence et vous demandiez quelle convocation en concret.
Oui, déjà pour commencer, je ne comprends pas les choix de convoquer Baba, l'ancien joueur des choses pour, qui est un meneur. Vous avez déjà John Jordan, vous avez Chuma Toto, deux meneurs qui ont presque les mêmes profils. Vous augmentez un troisième meneur qui n'apporte aucune plus-value à l'équipe. Ce qui paralyse l'équipe, ce qui paralyse les turnovers de l'équipe, parce que à un moment donné, on a l'impression que le coach n'a pas de solution sur les bancs. Pourtant, à la place de Baba, moi j'aurais préféré un Pire Wanabene Pirlo, parce que lui c'est déjà un scoreur, c'est un joueur qui peut apporter un plus, c'est un joueur qui peut jouer dans plusieurs rôles, dans plusieurs positions sur les parquets différemment des Baba. Lui c'est un meneur pur, vous avez déjà deux meneurs purs et qui sont supérieurs à Baba. Alors la présence des Baba, j'ai du mal à la comprendre. J'ai également du mal à comprendre pourquoi on continue à appeler Guerreau. Pour moi c'est un joueur qui n'apporte plus rien à la sélection. J'ai défendu jusqu'à cette fenêtre, j'ai rien vu des concrets, j'ai rien vu les bien fondés de ramener Guerreau dans cette sélection.
Vous pensez qu'à la place, il faut qu'on prenne quelle perle se retrouvant à quel endroit monde?
Oui, à la place de Guerreau, nous savons déjà que les meilleurs joueurs de cette sélection nationale, c'est l'Outeté. Mais nous constatons l'absence de l'Outeté sans aucune explication valable.
Mais lors de la dernière fenêtre, il a été également piètre dans sa performance.
Oui, mais quand même, ça pouvait être un concours de circonstances, mais je me dis que c'est inconcevable de faire une sélection de la RDC sans l'Outeté, qui est notre meilleur joueur. On ne sait pas quelles sont les raisons qui ont amené à ce que l'Outeté ne fasse pas partie de cette fenêtre. Mais pour moi, l'Outeté avait toute sa place. Il y a également d'autres joueurs, il y a d'autres binationaux qui sont venus pour cette fenêtre, qui ont fait les stages avec les autres. Mais nous avons constaté que lorsque la liste des 12 est sortie, il y a deux binationaux, des nouveaux binationaux qui n'ont pas été retenus. Pourtant, avoir les matchs amicaux qu'ils avaient livrés contre, je pense, la Stoala ou quelque chose comme ça, c'est des joueurs qui avaient montré leur niveau, qui avaient montré qu'ils avaient l'étoffe pour représenter la RDC et représenter valablement. Donc, pour moi, c'est cette défaite et peut-être celle d'aujourd'hui, parce qu'il y a de fortes chances que l'on perde également aujourd'hui, c'est à mettre à l'actif du staff technique.
Et au-delà de ça, on n'arrive plus à ramener Kuminga, Jonathan.
Oui, Kuminga, je pense que c'est une page qui est en train de se tourner petit à petit. Là, encore une fois, la NBA n'a pas encore commencé. Ils sont dans, on appelle sa saison off en NBA, mais il a préféré faire ses vacances à Miami au lieu de venir jouer, au lieu de venir prêter main forte aux autres. Mais pour moi, l'absence de Kuminga et l'absence d'ailleurs des tous les Africains qui évoluent en NBA, pour moi, je pense que c'est de la faute, ça incombe à la FIBA, qui ne sait pas, au même titre que pour le football, qui ne sait pas imposer une règle, une loi qui obligerait tous les joueurs qui évoluent en NBA revenir pour jouer avec leur sélection. Et puis, il y a aussi ces problèmes-là des calendriers. Vous allez vous rendre compte, bon, c'est vrai que ces temps-ci, c'est une saison morte, mais vous allez vous rendre compte qu'il y a des fenêtres qui sont programmées pendant que la NBA s'y joue. Et il n'y a aucun joueur de la NBA qui est capable de laisser les matchs de la NBA pour venir jouer en Afrique. Ce qui nous pousse à croire que la FIBA a un peu délaissé, a jeté aux oubliettes les basketballs africains, parce que ce sont toujours les joueurs qui évoluent sur les continents qui se battent pour les qualifications.
Soit ceux qui évoluent en Europe.
Espagne,
en France.
Justement. Et puis pour les compétitions internationales, pour les échéances internationales, il y a quelques-uns qui jouent en NBA qui viennent uniquement peut-être pour les Jeux Olympiques et la Coupe du Monde. Mais je pense que la FIBA doit revoir sa politique, faire en sorte déjà que les programmes ne coïncident pas, que le programme arrange toutes les parties et qu'il fasse également en sorte que le joueur, qu'il y ait un caractère contraignant qui pousserait les joueurs à venir jouer en Afrique.
Il faut dire que les Ivoiriens ont pris l'avantage dès le premier quart-temps et ont maintenu leur domination jusqu'au terme de la rencontre, s'imposant sur un écart de 43 points. Donc, tenez bien, 43 points. Côté congolais, Jonathan Jordan a inscrit 11 points et pris 7 rebonds. Garmin Kande a terminé avec 10 points et 7 rebonds, tandis que Florent Tamba a ajouté 9 points et 7 rebonds pour la Côte d'Ivoire. Moulare Assamaï a été le meilleur marqueur de la rencontre avec 17 points. Aboubakar Traoré a inscrit 13 points et Kevin Yebo en a ajouté 12. Déjà qualifiés pour le deuxième tour des éliminatoires après leur succès contre Madagascar 82 à 62, les Léopards enregistrent leur deuxième défaite face aux éléphants dans cette campagne après celle concédée en février dernier. La RDC clôturera cette troisième fenêtre des éliminatoires aujourd'hui dimanche 5 juillet avec un match, nous y avons fait allusion, contre le Sénégal. Heureusement, nous sommes déjà qualifiés pour l'étape suivante, donc il faudra suivre de près cette performance qui nous servira peut-être de préparation pour les échéances futures. Vous l'avez donc suivi également. Face à Madagascar, la RDC s'était imposée sur le score de 82 à 62. Shekina Munanga avec 23 points, 9 rebonds, 4 assists, a donc été désigné MVP de cette rencontre. Nous espérons que les erreurs seront corrigées en perspective d'une bonne suite pour cette équipe nationale de la République démocratique du Congo. Nous observons une pause et juste après, nous reviendrons pour parler football, tout en revenant déjà sur ce message de M. Thierry Mouira Wanyungu. C'est donc un sportif né, un sportif vacciné qui nous a envoyé ce message. Bonjour Expedi, mes sincères condoléances à mon jeune frère Boruto Ritier. C'est le cœur lourd que je viens d'apprendre la mort de sa maman. Courage à toute la famille. Dieu donne, Dieu reprend. Sois fort, mon cher Boruto, la vie est ainsi faite. Mouira Thierry signe ce message.
Voilà, pour
L'histoire retiendra davantage. Vous avez donc suivi cette chanson de Trio Majesty qui est revenue sur le parcours des léopards de la République démocratique du Congo. Je crois qu'à l'époque c'était les Simba du Zaïre, hein, en 74 en Allemagne, les Léopards de la RDC en Allemagne. Après, ils ont été baptisés Simba, voilà. Ils étaient en Allemagne. Il est revenu sur l'épopée d'Ngoi Kidumu, Kembo, Kibonge, Mayangam, Mavuba et Kabasu. Et l'histoire tiendra aujourd'hui que les Chipenga, les Noah Sadiki, les Lionel Mpasi, les Bakambu, les Mayele ont représenté la République démocratique du Congo à la Coupe du Monde aux États-Unis, au Mexique et au Canada pour l'édition de 2026. Fière chandelle donc au Léopard de la République démocratique du Congo. L'histoire tiendra davantage le parcours que le résultat final battu 2-1 par l'Angleterre en 16e des finales de la Coupe du Monde 2026. La RDC met un terme à une campagne qui marque un tournant dans son histoire footballistique. Classée 41e au classement FIFA avant cette rencontre, la RDC a démontré qu'elle pouvait regarder les grandes nations dans les yeux face à une Angleterre classée 4e mondiale. Les Léopards ont livré une prestation pleine de personnalités sans jamais renoncer à leur identité des jeux. Brian Chipenga a rapidement concrétisé les ambitions congolaises en ouvrant le score dès la 7e minute. Pendant près de 70 minutes, les hommes du sélectionneur congolais ont résisté face aux offensives anglaises grâce à une organisation défensive solide et à une grande discipline collective. L'expérience anglaise a toutefois fini par faire la différence. Harry Kane, capitaine de Free Lions, a inscrit un doublé aux 75e et 84e minutes pour renverser une rencontre qui semblait longtemps échapper à son équipe. Au-delà du score, cette Coupe du Monde restera une réussite pour la RDC. 52 ans après sa dernière apparition sur la scène mondiale, les Léopards ont non seulement retrouvé l'élite du football international, mais ils ont également franchi un cap en atteignant la phase à élimination directe. Amani Maendeleo, avant d'analyser ou, disons, d'évaluer le parcours de la RDC dans cette Coupe du Monde, focus d'abord sur le match face à l'Angleterre. Comment vous l'avez évalué?
Voilà, un match qui a été très important pour nous, hein. Moi, j'ai compris comme si le coach, au fur et à mesure que le match a évolué, a changé sa façon de voir les choses et peut-être ce qu'il a préparé. Parce que je vois les Léopards qui commencent le match avec une équipe très offensive. Parce que c'était d'ailleurs une première que je vois Sébastien aligné dans la même équipe. Et Chipenga, Mbuku, il a ajouté... Noah Sadiki, il y a eu contre Ouzbékistan, ouais, c'est vrai, mais Bakambu était dans les 11 contre Ouzbékistan, ce qui n'était pas le cas pour le match de l'Angleterre. Et donc, j'ai vu qu'il voulait à ce que l'équipe puisse vraiment jouer, attaquer et consort. Et ça s'est bien passé parce qu'on a marqué si vite.
Très tôt, à la 7e minute.
Oui, mais j'ai comme impression qu'après avoir marqué, quelques consignes ont été données aux joueurs parce qu'en ce moment-là, on n'a plus joué comme on le faisait avant de marquer.
Ou plutôt, on a réveillé le Lyon.
Bon, pas nécessairement, mais on a baissé des régimes. Et pourquoi? C'est parce que peut-être les Congolais, les joueurs se sont dit avec leur entraîneur que voilà, on a réussi à marquer. Ce qu'on doit faire, c'est de beaucoup de défendre et de peut-être attendre la suite. Parce que à un certain moment, comme on a beaucoup défendu, on commençait à courir derrière le ballon, on a été fatigué. C'est pourquoi d'ailleurs, quand vous voyez les buts, surtout le deuxième but, je vis que les joueurs sembleraient être fatigués parce qu'il y a le ballon qui revient au milieu de terrain à qui on donne à l'attaquant phare de l'Angleterre, mais il a pris quelques temps avant de tirer. Je n'ai pas vu vraiment être dérangé comme c'était le cas pour tous les autres matchs. J'ai vu par exemple Toinzev qui était un peu distrait, c'est vrai, Chancel était un peu loin, mais j'ai compris que la raison c'est aussi cette fatigue, parce que c'est ça aussi la conséquence. Lorsque vous défendez trop et vous refusez de jouer, c'est que à un certain moment vous fatiguez. Vous fatiguez parce que vous faites un pressing à tout moment. Et donc pour moi, mais déjà il faut dire que c'était bien parti. Mais si, parce que le football, c'est avant le match, ça s'analyse. On vient au terrain, toujours c'est voilà les rôles que je vais jouer, je vais me comporter ainsi et qu'on sort. Et pour moi, donc moi j'ai vu que après le but, c'est comme si on a changé de tactique. C'est vrai, on a gardé la même équipe.
mais on a laissé les
suite,
ballons.
Pas tout de suite parce qu'on passe à côté d'un deuxième but.
Oui, c'est, non, les buts, non, c'est vrai, on passe à côté du deuxième but, mais en ce moment-là, on n'avait plus de ballons.
Est-ce que réellement on a changé les tactiques ou on a subi maintenant les jeux de l'Angleterre?
Non,
ou pas que la RDC.
Moi,
a gardé le même dispositif, mais a subi plutôt les jeux
moi,
d'Angleterre.
Je ne crois pas
parce qu'on rappelle que c'est le quatrième au classement mondial.
Exactement.
Et qui a encaissé très précocement un but et qui devait réagir.
Exactement, l'Angleterre devait réagir. Mais moi, j'ai vu dans le match qu'on a changé notre façon de jouer. Surtout notre façon de presser. Parce que quand on a commencé, déjà on a senti qu'il y avait une équipe de Léopards très déterminé et qui voulait toucher presque tous les ballons. Mais juste après le but, c'est comme si on s'est dit que voilà, c'est déjà un bon résultat. Défendons et voir si ça va bien se passer à la fin. Et voilà, on a fini par encaisser le but. Enfin, c'est vrai, ça a marché parce que vous allez voir que après avoir marqué, il y a eu beaucoup d'attaques de la part de l'Angleterre. Voilà, même là où passé a été encore une fois meilleur. Mais pourquoi il y a eu toutes ces attaques? C'est parce qu'à un certain moment, on a permis à l'Angleterre de faire ainsi. Donc pour moi, je crois que l'entraîneur aurait donné quelques consignes qui serait en contradiction avec ce qu'il a préparé dès le départ. Parce que si l'on veut défendre, pour moi, si on voulait défendre après avoir marqué les buts, il fallait aussi changer de système. C'est-à-dire nous faire ramener dans ces milliers, peut-être de ces milliers qui étaient sur le banc et qui sont capables de bien défendre. Parce que quand vous avez Noah Sadik, vous avez Moukaou, c'est pas comme vous avez Edo Kaembe ou Piqué lorsqu'il faut défendre. Parce qu'il y a ces milliers qui sont à vocation offensif et d'autres qui sont mieux lorsqu'il faut défendre. Donc pour moi, c'est un match qu'on devait gagner. Si on respectait ce que... C'est vrai, je n'ai pas été là où l'entraîneur, ce qu'il a dit, mais j'ai vu comme s'il n'a pas vraiment continué dans sa philosophie dans ces matchs. Parce que Sébastien, c'est quelqu'un qui aime trop défendre. En tout cas, il nous a habitués à ce système.
Mais cette fois, il a changé.
Il a changé et ça marchait. Mais c'est comme s'il voulait défendre avec des joueurs à vocation offensive.
Exaucé.
Bon, voilà, moi, je pense qu'il fallait voir... Pour Amani, il fallait voir les choses dès les départs. Départ, ça veut dire dès la préparation du match, la conférence de presse des deux entraîneurs. Et si vous avez bien suivi Thomas Tuchel, dans tout ce qu'il disait, il voyait vraiment une équipe de la RDC qui sera là pour défendre, justement. Et il récitait, en tout cas, le système tactique des Léopards depuis que des sabres, il est là. Il disait, bon, nous attendons à un 3-5-2 probablement, nous attendons à un bloc bas. Et arrivé sur le terrain, il est surpris. Il est surpris que la RDC joue offensivement. Et là, il fallait un temps d'observation pour maintenant, pour qu'il entre aussi dans le match. Parce que vous allez voir que lorsque le match commence, on donne le coup d'envoi, il y a toute l'équipe, presque toute l'équipe anglaise qui monte dans notre camp pour justement aller asphyxier nos défenseurs. Et dans les camps anglais, il reste juste Marc Guéhi et Isri Konsa. Toute l'équipe part attaquer. Mais après, il trouve que, bon voilà, la RDC commence à jouer offensivement. Là, il fallait maintenant un temps d'observation pour l'Angleterre. Et dans ces moments-là d'observation, on profite un but. Donc là déjà, l'Angleterre devrait se réveiller et ils ont défini d'autres mécanismes maintenant pour jouer face à cette équipe offensive de la RDC. C'est la raison pour laquelle vous avez peut-être vu du recul de la part de la RDC, mais ce n'était pas pour moi du recul. C'est juste l'Angleterre qui s'est maintenant imposée. Et après, c'est vrai, on aurait défendu peut-être jusqu'à la fin du match.
Ridicule parce qu'on a joué beaucoup dans notre cas.
Mais c'est peut-être impossible lorsque vous avez des joueurs... quand tu as un Saka qui est remplaçant dans une équipe anglaise, tu as...
Anthony Gordon.
Gordon qui est remplaçant, il vient d'un transfert des 80 millions FC Barcelone. Eze également, tous sont des titulaires indiscutables dans des grands clubs.
Ils ont gagné des matchs sur le fil en Angleterre, donc ils ont l'habitude et l'expérience du money time.
Voilà, effectivement. Donc, quand vous avez une équipe où les remplaçants ont le même niveau ou presque des titulaires, c'est vraiment difficile de défendre jusqu'au bout. Mais lorsque les énergies étaient au même niveau, on a senti que la RDC pouvait défendre très bien. Mais après, lorsque la RDC arrive à un niveau d'énergie des 50%, et puis Tourelle qui fait des remplacements, et il y a ces joueurs qui arrivent avec une nouvelle énergie, on ne pouvait que voir cela, même si, de ma part aussi, Sébastien Desabre, dans les remplacements, il a un peu pêché à la place des Moukaou. Moi, je prendrais Noah Sadik. Noah Sadik qui devrait sortir dès les débuts et mettre Moukaou dans un rôle beaucoup plus bas, parce que Noah Sadik il avait déjà un carton jaune et ça empêchait déjà, ça empêchait déjà les joueurs à défendre, parce que même sur le deuxième but d'Harry Kane, pour moi, il doit tacler. Parce qu'Harry Kane il n'est pas gêné, il n'est pas touché, et c'est lui qui doit tacler, c'est Noah Sadik. Malheureusement, il a peur parce qu'il a déjà un carton jaune, il ne peut plus les faire. Même sur le premier but, il doit sauter. Il doit faire un effort de sauter pour enlever le ballon. Vous avez même vu la réaction de Tuanzebe. Vous avez vu la réaction de Tuanzebe, comment il le tient. Il lui dit, ben, pourquoi tu n'as pas sauté? C'est vrai, par derrière, Tuanzebe devrait également gêner Harry Kane. Une chose qu'il n'a pas réussi à faire parce qu'il était vraiment en retard. Mais au départ, ça dit qu'il allait faire un effort et toucher le ballon. Malheureusement, ça va lui servir d'expérience, et espérons qu'à la prochaine, il ne va plus commettre ce genre d'erreur.
Arcade, à quel niveau la RDC a pêché? Parce que visiblement, les Léopards étaient à deux doigts de réaliser une performance héroïque et historique. Même si, malgré la défaite de 2-1, la performance est saluée à juste titre.
Moi, je crois qu'on a pêché dans nos remplacements. C'est là où on a pêché, parce que tout ce que Desabre a opéré comme remplacement, ça n'a pas payé. Mais par contre, tout ce que Thomas Tuchel a opéré comme remplacement, on a vu que ça produit des fruits. À l'immédiat même, parce que d'ailleurs, sur les débits, les passeurs, ils viennent du bas des touches. Par contre...
C'est lié à quoi? Le changement, oui. Les changements effectués, c'est lié à la qualité des joueurs ou non, des mauvais changements?
Non, c'est pas à la qualité des joueurs. Je crois qu'il y a pour une fois...
Parce que Exocet a estimé que les entrants anglais étaient plus performants que les entrants congolais.
Oui, personnellement, c'est ma façon de voir les choses. Je sais qu'on ne peut pas produire tous une même analyse ici, mais j'ai l'impression que pour une fois, Desabre a mal lu encore le match. Parce que quand tu mènes 1-0 face à l'Angleterre à la 70e minute de jeu, je ne vois pas à quoi ça sert de mettre tous ces attaquants. Je ne vois pas à quoi ça sert de faire tourner l'attaque. Il y a des remplacements qui ont été opérés, pour moi, qui nous ont carrément tués.
Il a mis des gens qui pouvaient alors défendre.
Bon, qui pouvait continuer à presser offensivement. Il a oublié que... Prenons l'exemple. Nous menons 1-0 à la 70e minute de jeu. Pourquoi ne pas revenir à ce fameux 5-3-2 qui a marché carrément face au Portugal et qui a mis la Colombie en difficulté pendant 90 minutes, même s'ils ont fini par trouver une erreur, un but sur une erreur défensive? Pourquoi ne pas revenir à ce système? C'est un système qui était vanté, c'est un système qu'on arrivait déjà tous, qui nous a presque tous convaincus. Et je me rappelle, avant cette rencontre, on était tous, d'ailleurs le dimanche passé ici, on était tous d'accord qu'il jouerait de cette façon. Maintenant, quand tu joues l'Angleterre, tu sais que tu mènes au score, tu sais que tu es à 20 minutes de la fin du match, tu sais que tu es capable de conserver ou de défendre pendant les 20 minutes et garder peut-être l'avantage. Je ne comprendrai jamais pourquoi Sébastien Desabre n'est pas revenu à ses 5-3-2.
Mais est-ce qu'on peut aussi comprendre que la meilleure défense reste aussi l'attaque? Si on présentait ces niveaux d'analyse également, quelle peut être la réaction? Parce que autant on peut défendre en gardant un bus derrière, autant on peut savoir défendre si on menace l'adversaire.
Je suis d'accord avec vous, Expedi, mais pourquoi il sort?
Il est déjà fatigué. Et qui avait déjà un carton? Oui. Pour un milieu de terrain, c'est déjà, si vous lui administrez un carton, ça signifie que vous lui demandez de ne plus presser. Il y a des choses qu'il ne peut plus faire parce qu'il a peur d'avoir un deuxième carton.
C'est sorti.
Oui. Alors, en ce moment-là du match, lorsque tu constates que tu es acquis par l'Angleterre, mais tu reviens dans ton système habituel où tu es habitué à défendre, où tu connais mieux faire que quiconque.
Voilà.
Parce qu'en ce moment-là, tu ne peux pas défendre contre l'Angleterre avec Moukaou et Noah Sadiki. Mais dans ce cas, Edo Kaim et Sylvain, vous l'amenez là-bas. Vous faites sortir Noah Sadiki qui était fatigué. Et puis, je reviens encore sur la sortie de Chipenga. C'est vrai, vous dites que... Mais si vous avez vu, du fait qu'il a réussi 3 dribbles déjà, C'était déjà une menace contre l'Angleterre. Et la défense était informée. Chaque fois que la Wallonie était de son côté, vous voyez qu'il y avait les centraux qui étaient tout près de lui. Parce qu'ils savaient qu'à tout moment,
deux angles autour de lui.
Mais contrairement à Méchac, j'ai vu, je ne sais pas, peut-être c'est moi qui ai mal vu, mais je n'ai pas vu là où il a réussi une fois à dribbler son adversaire.
Mais la faute, c'est pas celui qui l'a aligné, parce que oui. On sait qu'il a fait une bonne entrée face à l'Ouzbékistan.
Pour nous, déjà, les
défenseurs. Parce que l'idée, c'était. Oui. Parce qu'on connaît l'une des forces de Méchac, c'est également la profondeur.
Exactement. Malheureusement, même si sa vitesse, c'est ça n'a pas été le cas. Oui, il a mal interprété. Exactement. Il a mal interprété. Et pour moi, comme l'a dit Arcade, si on voulait garder les résultats, il pouvait tout simplement changer de système, amener des joueurs à vocation défensive et faire sortir ceux qui étaient déjà fatigués, voilà. Qui ne pourraient qu'attaquer, mais pas beaucoup défendre.
Merci beaucoup, Benjamin. Votre analyse de ce match.
Alors, déjà pour commencer, je m'attendais, et j'ai peut-être la baraka de parler en dernier.
Non, les autres vont parler, on a encore tout le temps pour analyser.
Pour ce sujet, enfin, de parler après les autres alors. Je m'attendais à ce que Arcade Exaucé ait la grandeur et l'élégance de s'excuser. Parce que tout juste après la publication de la liste des sables, ils étaient tous courus sur leur statut pour écrire que nous allions perdre par des scores fleuves, que nous allions être décevants, pitoyables pendant cette Coupe du Congo. Alors j'ai pensé qu'ils auraient la grandeur et l'élégance de s'excuser, mais je constate que voilà, ils
s'excusent là où on a, disons, j'avais posté ça sur mon statut, je dois m'excuser sur mon statut.
Sur le même cadre.
Voilà, mais déjà pour analyser ce que vous avez dit, que nous allons commencer uniquement sur ces matchs, il y a plusieurs arguments qui ont été donnés ici. On dit que des sabres déjà avaient changé sa philosophie des jeux après avoir marqué. Moi, je pense plutôt que c'est ce qu'il a amené l'Angleterre là où il voulait l'amener. Les plans étaient, comme l'a dit Exaucé, de surprendre, de vite surprendre l'Angleterre. Et après avoir surpris l'Angleterre, de bien défendre. Il y a trois évidences que ces matchs avaient. L'Angleterre était supérieure à nous. Qu'on le veuille ou pas, sur papier, ils étaient supérieurs à nous. Deuxième évidence, on n'allait pas avoir les ballons. Donc c'est ça, on s'attendait à ce que l'Angleterre ait les ballons, on s'attendait à ce que l'Angleterre fasse les jeux, que nous, on défende bien et que l'on sache bien contre-attaquer par la suite. La troisième évidence, c'est que l'Angleterre avait un super soldat. L'Angleterre avait une pièce en plus. C'est Harry Kane. Donc on pouvait beau bien défendre, mais ça c'était un joker que l'Angleterre possédait. Alors lorsque nous marquons en premier, c'était ça le plan des Sabres. Là, c'était à l'Angleterre de pousser pour tenter de revenir au score. Et nous, l'objectif c'était de bien défendre derrière et de profiter de la largesse peut-être défensive des espaces que l'Angleterre allait laisser. D'où la titularisation de ces deux ailiers. Chimpenga aime beaucoup parce qu'à un moment donné, indubitablement, l'Angleterre allait laisser des espaces. Et avec ses attaquants, on allait avoir l'opportunité.
Ça évoluait de soi.
Oui.
Au moment où l'Angleterre va pousser, il fallait que l'Angleterre attaque.
Exactement.
Pour essayer de remettre la pendule à l'heure.
Exactement. C'était ça le plan des Sabres. Et pour moi, jusque-là, était vraiment dans son plan de jeu. Il était dans sa philosophie, il était dans sa stratégie. Nous réussissons à aller à la mi-temps en menant au score. Nous revenons avec la même philosophie. Nous allons bien défendre, nous allons être très solides derrière et pousser en attaque, profiter de toutes les occasions qui allaient se présenter. Alors, ce qui est arrivé avec les deux buts que nous avons concédés, pour moi, je dirais que c'est simplement la faute à pas de chance. On a fait les matchs qu'il fallait faire, on a défendu du mieux que l'on a pu, mais ça a été la faute à pas de chance. Ça a été.
C'est pas mettre l'actif de
qui que ce soit.
De la fatigue,
non.
Des changements.
Il n'y a pas de
marquage. Harry Kane, il est marqué dans un fauteuil.
Non, oui, pas, bon, on ne va pas. Déjà, il faut circoncire les propos. Déjà, pour moi, on va commencer par les remplacements parce que vous l'avez évoqué. Pour moi, il n'y a aucun changement qui... Et comme vous l'avez dit, l'intention était bonne. Théoriquement, ces changements-là provenaient d'une bonne réflexion. Mais dans la pratique, ça a été différent. Mais moi, je pense que...
Parce qu'il faut, qu'on arrive à circonscrire. Parce que, comme je le disais tantôt, c'est très simpliste de critiquer l'entraîneur.
Justement.
Mais l'entraîneur également a une intention à travers un changement.
Exactement.
Mais l'intention sur le terrain peut se concrétiser autrement avec la forme du joueur qui molle, ou par exemple avec la réaction de l'équipe adverse.
Exactement.
C'est aussi ça la
possibilité. Parce qu'il a mis Bongonda pour garder la balle, ce qui n'a pas été le cas.
Pas pour garder la balle, mais pour prendre en compte l'Angleterre qui agressait la RDC. Donc il voulait au même moment que la RDC défend qu'il ait des gens à l'attaque qui prendraient peut-être l'Angleterre au dépourvu.
Exactement.
Malheureusement, ça n'a pas bien tourné parce que j'ai vu que les défenseurs de l'Angleterre, ils ont été très malins. Tant que les balles arrivaient sur les ailiers, il y avait au moins une ou deux personnes tout autour pour essayer de mettre en mal les attaquants de la RDC.
Exactement, vous avez dit les termes. De ça, émettre des changements qu'il fait, mais il n'est pas mettre des prestations du joueur qu'il met sur les terrains. Lui, ça partait d'une bonne intention. Il a dit effectivement que Michel, par exemple, il allait bien défendre et profiter de la profondeur. C'est pour ça que c'est un joueur de la profondeur. Pourquoi la sortie de Chipenga? Chipenga, c'est un joueur qui joue en 12e division espagnole. Il n'est pas habitué à jouer à cette intensité-là. Et il a été cramé à un moment donné, qu'on le veuille ou pas, qu'il soit le meilleur joueur qu'on voulait sur les terrains, il a été fatigué. Mais il fallait qu'il sorte. À un moment donné, il fallait vraiment que Chipenga sorte parce qu'il ne faisait plus les efforts. Ça, on l'a dit depuis que Desabre est là. La première qualité qu'il recherche chez un joueur, c'est également les replis défensifs. C'est la solidité défensive. Alors, lorsque, à partir du moment que Chipenga ne revenait même plus pour aider Masuaku, et c'est là que Masuaku a eu plus de charges, ce qui a fatigué encore plus Masuaku. Il fallait réajuster les choses. Il fallait réagir. Et c'est comme ça que Chipenga est sorti. Vous avez parlé de Noah Sadiki. Noah Sadiki, comme vous l'avez tous dit, on a été tous d'accord sur ça. Noah Sadiki a été l'un des joueurs, pas le joueur le plus régulier, le meilleur joueur congolais de la saison. Alors, lui, il est habitué à jouer à ses...
Pour moi, en tout cas, les
plus réguliers, les meilleurs joueurs.
Faut le rappeler.
Si on regarde sur les 11,
c'est le meilleur.
Vu les niveaux du championnat et tout.
Oui, c'est le meilleur.
Parce que l'autre qui était régulier, c'est.
Bissaka.
Au-delà de Bissaka, le milieu de Lille, comment il s'appelle encore?
Moukaou. Moukaou n'a pas eu autant de
minutes. Mais pas autant de minutes et d'influence dans l'équipe comme nous.
Exactement. Noah Sadiki, c'était un joueur indéboulonnable. On peut compter sur les doigts les matchs que Noah Sadiki est sorti. Ouais. Il n'y a même pas plus de 5 matchs où l'entraîneur a sorti Noah Sadiki.
C'est le maire congolais.
On a vu.
C'est ça le problème. Ahmad Diallo, il était sur les bancs.
Laissez-moi aller jusqu'au bout des mains. On a vu Noah Sadiki pendant 90 minutes face à Arsenal, face à City, face à Liverpool. Alors, l'entraîneur savait que parmi ces joueurs, c'est lui qui avait l'aptitude d'aller jusqu'au bout.
C'est là qu'il s'est trompé.
Dans un match de cette intensité, c'était Noah Sadiki.
Très
pour moi, ça engage tout un chacun, mais pour moi, il n'était pas aussi fatigué que vous l'avez dit. Parce que moi, je voyais Noah Sadiki bien défendre, je le voyais aller en soutien des attaquants. Donc, pour moi, encore une fois.
Sur le premier but, il est bien parti.
Oui, encore une fois.
Son appel libère de l'espace pour.
Exactement. Encore une fois, pour moi, garder Noah Sadiki sur les terrains n'était pas une mauvaise chose. Alors, comme je l'ai dit, et pour finir, pour conclure. Moussami, lui, il était fatigué.
Il était vraiment fatigué.
Oui, mais lui,
on ne relance plus.
Lui, c'était. Mais justement, c'est ce qu'on est en train de dire. Il fallait faire des réajustements. Parce que nous avons tellement subi, nous avons tellement souffert. Et il fallait qu'à un moment donné, nous fassions également qu'il y ait une réaction. Et la réaction devait passer par des changements. Alors, pour conclure, pour finir, pour moi, en tout cas, cette défaite, c'est. C'est faute à pas mal de chance, mais sinon nous avons fait les matchs qu'il fallait, nous avons amené l'Angleterre là où nous voulions les amener, nous avons donné l'image du football congolais que nous devions donner et hâte de revoir cette équipe de la RDC.
Nous évaluons maintenant la compétition de façon globale. Amani, comment vous évaluez la RDC dans cette Coupe du Monde? Certes, 52 ans après, pouvons-nous dire qu'il s'agit d'un retour gagnant?
Oui, dans si son ensemble, donc tout au long de la compétition, la note pour moi c'est 7 sur 10.
7 sur 10.
7 sur 10 parce que nous commençons dans ces groupes avec le Portugal et la Colombie.
Moi, vous voyez que tous les intervenants donnent une cote à la
performance. Moi, je savais déjà que pour les deux, ce sont des défaites. En tout cas, avant les coups d'envoi.
Mais également, nous prendrons un temps à la fin pour coter les joueurs un à un.
Ouais.
Surtout ceux qui ont participé.
Voilà. Pour moi, quand on commence la compétition, je me disais, bon, on est là parce qu'on a joué le barrage, c'est quand même le Portugal. En ce moment-là, au début de la compétition, c'était l'une des équipes favorites. Je savais également que la Colombie, c'était, après l'Argentine, peut-être l'équipe américaine la plus dangereuse. Mais quand on joue quand même les deux matchs, il y a des bons résultats. des bons résultats parce qu'on fait match nil contre le Portugal, d'ailleurs le meilleur pour moi, pour nous, depuis le début de cette compétition. En deuxième match, c'est vrai, je m'attendais déjà à quelque chose de plus parce que je me disais, bon, on a fait quand même un bon match contre le Portugal, peut-être on pouvait encore faire mieux contre la Colombie. Là aussi, on n'a pas complètement démérité parce que quand même, 1-0 encaissé, comme tout le monde l'a dit ici, c'est vraiment un défenseur qui trompe son gardien et donc c'était aussi bien maîtrisé. Mais ce que j'ai aimé quand même, j'ai compris que l'équipe commençait à avoir une certaine identité, surtout pour les deux premiers matchs. Parce que je savais, on savait déjà tout ce que l'entraîneur, déjà sa défense, c'est ok. On pêchait, c'est vrai, comme je savais d'ailleurs avant la compétition, qu'on devait avoir un problème sérieux d'un véritable meneur, numéro 10, qui n'était pas dans l'effectif parce que tout le monde, tous nos milieux là, que ce soit Nwazali, que ce soit Muka ou les autres, ce ne sont pas vraiment des véritables meneurs. Ils sont plutôt mieux peut-être comme numéro 8 et des autres numéro 6. Mm-hmm. Mais déjà, j'ai vu que malgré l'absence de ce meneur, l'équipe était ensemble. On a défendu ensemble. J'ai vu ces collectifs commencer à naître. Et c'est ça ce que je mets pour cette équipe nationale. Donc je suppose que...
C'est-à-dire la... solidité défensive.
Oui, la solidité défensive, parce que tout le monde était mis en contribution pour parvenir quand même à réussir ce qu'on a fait. Parce que les systèmes là, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce que vous êtes dans l'obligation de beaucoup défendre.
Et vous parce avez, qu'à la moindre erreur, vous encaissez un but.
Vous encaissez un but.
Et tel a été le cas face à
et chaque fois, on est dans votre cas. Parce que vous n'avez pas la possibilité de garder le ballon pendant longtemps. Tout simplement parce que pour les joueurs de devant, vous êtes moins nombreux. Il y a des qui sont là, les autres sont là pour défendre. Et donc, moi, j'ai vu que on pourrait quand même espérer peut-être prochainement à cette équipe, même si elle mérite quand même d'être renforcée pour certains compartiments.
Si je comprends bien, la leçon que vous tirez, c'est la solidité défensive
de la RDC. Oui, exact. Ça a vraiment marché. Malheureusement, c'était sur... on a compté beaucoup sur Mbemba, je crois, il n'a pas beaucoup d'années encore avec nous. Mais quand même, je vis aussi, c'est tout ça, elle est positive. J'ai vu que Kapwadi pouvait quand même remplacer valablement Mbemba. Et donc pour moi, si Mbemba était absent, j'ai vu les Dio Kapwadi Twanze, ça pourrait marcher.
Merci beaucoup. Arcade, quelle leçon tirer après ce parcours de la RDC?
L'identité déjà. Moi, je pense qu'on s'en fait déjà une identité. On sait si on veut bien défendre, on sait comment jouer désormais.
Mais identité, par là, il faut qu'on lève des options. Parce qu'on a vu deux équipes de la RDC différentes. Exactement. Dans cette Coupe du Monde. Exactement. On a vu une équipe de la RDC défensive, ultra défensive, face à la Colombie et le Portugal. Mais face à l'Ouzbékistan et l'Angleterre, c'est une toute autre équipe de la RDC. Bon, ils se sont décidés. Sur quel pied finalement danser pour la suite?
Moi, je pense que...
Mais même si on est censé, on peut changer à tout bout de champ.
Oui, exactement, c'est là où je voulais dire qu'on doit s'adapter à l'adversaire qu'on a en face. Ouais. Même si on est tous d'accord que face à l'Angleterre, on s'attendait à la même équipe qu'on a vue face au Portugal et face à la Colombie. C'est à cette équipe qu'on s'attendait peut-être face à l'Angleterre. Mais l'image que l'équipe a montrée face à l'Angleterre, c'est l'image que moi j'ai retenue et c'est l'équipe que moi j'ai retenue. Parce que c'est l'équipe qui m'a beaucoup plus emballé dans cette Coupe du Monde. Bien que vous allez me dire que je suis fou parce que c'est les matchs auxquels on perd sur ces scores de 2-1. Mais moi, s'il y a un match référence qu'on a dans cette Coupe du Monde, c'est ce match face à l'Angleterre. Parce qu'on ne pouvait pas imaginer qu'au-delà de marquer en premier, on pouvait aussi maîtriser l'Angleterre pendant toutes ces minutes-là. Parce que face au Portugal, on se contente de défendre. On ne fait rien que ça. Bien qu'on finisse par avoir une action, j'appellerais ça d'ailleurs un coup de chance, sur cette frappe de Massouakou.
Et après, on a eu plus de tirs cadrés que le Portugal après.
Bien sûr, on s'était contenté de défendre tout simplement. Ce qui n'a pas été le cas face à l'Angleterre. Face à la Colombie, c'était également la même chose. Et j'ai l'impression que des sabres avaient peur. Et tout ce dont il avait envie, c'est de recopier. J'en profite pour le dire ici parce qu'Héritier n'est pas là. Je sais qu'il ne m'autoriserait pas. J'ai l'impression qu'il voulait tout simplement faire les copier-coller du match face au Portugal. Et c'était une erreur grave. Mais on a vu que face à l'Ouzbékistan, des sabres sont sortis de l'eau. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête ou dans son entourage. On a vu qu'il n'a pas eu peur d'encaisser. Il s'est décidé d'ouvrir les jets.
Non mais c'est l'enjeu. Bon, pourquoi vous ne reconnaissez pas que les enjeux ont changé? Parce que l'enjeu du match du Portugal, tout autre que l'Ouzbékistan. Exactement. Face à l'Ouzbékistan, il y a une obligation
de victoire.
Des résultats.
Et on joue avec un adversaire aussi faible. Ouais. Donc, on ne peut pas jouer de la même façon.
Ça, c'est
pas
les mêmes équipes. Risques, oui.
Mais je crois que ces matchs aussi nous a servi de voir qu'on avait également des atouts offensifs. Parce que l'image qu'ils voulaient nous vendre lors des deux premiers matchs, c'est qu'on n'avait pas des attaquants, c'est qu'on n'avait pas des ailiers capables de faire la différence. C'était l'image qu'on avait déjà de notre équipe. Et je me rappelle, le dimanche passé, ici, quand on était ici, on était tous unanimes qu'il devait revenir à ce fameux 3-5-2. Parce qu'on se disait, on n'a pas des ailiers sur qui on peut compter. Mais moi, je me rappelle, j'avais dit ici que des joueurs qui sont en confiance, des joueurs qui sont parvenus à avoir assez de minutes dans leur club, on doit leur donner la chance. Et c'était le cas quand on voit les matchs que Chimpeng a fait face à l'Ouzbékistan. Je pense que c'est ces matchs-là qui lui voient encore cette titularisation face à l'Angleterre. Quand on voit les matchs que Mboukou fait face à l'Ouzbékistan, je crois que c'est cette performance-là qui parvient encore à lui offrir cette titularisation face à l'Angleterre. Et moi, je me dis aujourd'hui que peu importe l'adversaire en face, ça vaut la peine qu'on renonce à ces 3-5-2. Même si à un moment donné, j'écris à ce système aussi. Mais je me dis qu'on a une bonne défense pour qu'on se contente toujours de défendre avec 5 défenseurs centraux. Pour qu'on se décide.
Donc 5 défenseurs et 3 centraux précis.
Oui, oui.
Voilà 5 défenseurs sur.
L'ensemble de la défense.
Tout l'ensemble de la défense. On peut quand même mieux défendre avec ceux qui ont été alignés lors des matchs face à l'Angleterre. Là, j'ai fait allusion à Masuaku, Mbemba, Twanzembe et Aaron.
Même si vous-même, vous avez reconnu que. Si on montait Capoadi pour avoir une défense à 3, on aurait tenu les résultats. Vous comprenez un peu la complexité du métier d'entraîneur, en fait.
Ce n'est pas une contradiction, mais quand on mène déjà dans un match comme celui-là, face à une telle équipe, je pense que ça vaut la peine qu'à un moment donné, qu'on revienne à ce système de 5 défenseurs, parce qu'on mène au score, mais dans un match où nous voulons aussi nous procurer des occasions. À quoi ça sert de jouer avec un tel système? Parce que face à la Colombie, on a vu qu'on n'a pas existé offensivement. Peut-être qu'on aurait dû se procurer aussi un but dans ces matchs-là. Un but qui nous ferait d'ailleurs énormément diviser parce qu'on risquerait même de finir premier de notre groupe. Il suffisait aussi qu'on parte chercher un bon résultat face à l'Ouzbékistan avec un score de plus de 3 buts. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. On a voulu encore défendre du début jusqu'à la fin. Et moi, l'image que je me fais de cette équipe, c'est que on a quand même des ailiers qu'on ne doit pas dédaigner. On a quand même des attaquants sur qui on peut compter. Et des sabres doivent arrêter d'avoir peur de certains matchs. Peu importe l'adversaire en face, il a pris les risques face à l'Angleterre. Ça a payé. Il a pris les risques face à l'Angleterre. Et en titularisant quand même des attaquants comme Chimpenga, Kumbuku. Et là, on parle de la deuxième division. J'espère qu'ils auront la chance de monter en puissance cette saison, même si Chimpenga lui restera en deuxième division. Mais j'espère qu'ils auront la chance d'acquérir encore plus d'expérience. Maintenant, face au reste des adversaires, que ce soit sur les continents, que ce soit dans des matchs amicaux en dehors du continent, qu'il arrête d'avoir peur. C'est comme ça que moi, je qualifie ces deux premiers matchs, surtout les matchs face à la Colombie.
Parce que il faut dire que c'était la première fois qu'on voit une équipe avec 5 défenseurs, une équipe de la RDC.
La première fois, c'était face à la Chili.
Non, face au Danemark. C'est donc, voilà. C'est un prélude de la Coupe du Monde
que la RDC a
évolué comme ça.
Ouais.
Peut-être que c'était une aventure, une nouvelle aventure, et on ne sait pas comment on joue quand on n'a jamais eu une expérience. Et on a vu des équipes comme, par exemple, pratiquement toutes les équipes africaines, excepté le Sénégal. Jouer de la sorte. On a vu, par exemple, le Ghana jouer derrière. Et bon, on y est revenu le dimanche dernier. On a même eu la critique de Bastian Schweinsteiger de l'Allemagne. Même si son équipe, en fin de compte, jouait ce qu'elle était, elle a été éliminée par une modeste formation aussi qui a été écartée par la France hier.
Mais vous savez, la différence entre nous et toutes ces nations-là que vous avez citées, c'est que nous, au-delà de jouer avec ce système à 5 défenseurs, nous, on utilisait encore des milieux qui ne sont qu'en vocation défensive.
Malheureusement.
C'est-à-dire que nous, on n'avait pas
la capacité à sortir la balle.
Voilà.
Ghana, on était presque au même titre que le Ghana. Eux-mêmes aussi avaient du mal à sortir la balle. Mais j'ai vu, par exemple, que la Côte d'Ivoire, ça joue bien au milieu, ça jouait un peu bien au milieu.
Ah,
donc le ressortir de la balle était propre différemment de la RDC où c'est pratiquement 3 actions à vocation défensive qui étaient alignées. Bon, même si les uns ont certaines aptitudes offensives. Mais bon, dans l'ensemble, on a senti que c'était une RDC totalement défensive. Vous également, Exaucé, Quelle leçon tirez-vous de cette Coupe du Monde de la RDC? 52 ans après, la peur était au rendez-vous. D'aucuns pensaient qu'on allait vivre l'enfer de 1974 face au Portugal de Cristiano Ronaldo et consorts. Mais en fin de compte, la RDC a réussi à marquer son premier but en Coupe du Monde, réussi à gagner son premier match en Coupe du Monde et réussi à se qualifier pour une étape à élimination directe dans cette Coupe du Monde.
Voilà, nous on avait demandé qu'une simple qualification, mais ils nous ont donné plus. Tout ce que vous venez de citer là, c'est tout a été historique. Hein. Toute la Coupe du Monde de la RDC a été historique. Tout ce qu'on a fait, en tout cas, aura été...
Tout part de la qualification qui était historique.
Effectivement. Donc, si je mettais, par exemple, un 10 sur 10, ça ne serait pas scandaleux parce que notre Coupe du Monde n'a pas commencé aujourd'hui. Notre Coupe du Monde a commencé, c'est depuis le premier match des éliminatoires. Et on a réussi à jouer jusqu'à un niveau où on a senti que c'est là où notre niveau s'arrêtait vraiment. Donc déjà, on peut se satisfaire de voir qu'aujourd'hui, on a une équipe niveau 16e des finales de mondial. Et moi, je pense que, contrairement à Arcade, je pense qu'on n'a pas encore vu l'image vraiment de la RDC. Parce que je pense que cette Coupe du Monde a aussi servi des préparations pour la RDC, pour les échéances futures. Aujourd'hui, on se disait que on avait quand même des joueurs qui sont certains sont vieillissants et qui doivent quitter la sélection justement après la Coupe du Monde. Donc il y aura forcément d'autres arrivées. Je crois d'ailleurs en septembre en tout cas, sauf surprise, on n'aura pas moins de deux arrivées peut-être parce que avec les Cambois là et les autres. Ils peuvent arriver et ça va donner une toute autre image à cette sélection nationale. S'il y aura peut-être des renforts offensifs, ça va encore donner une autre image à cette équipe nationale. Donc je pense que Sébastien Desarbes, il a juste fait avec les armes qu'il avait. Mais dès que les armes vont changer, il va aussi changer d'identité. Donc pour moi, on n'a pas encore eu vraiment une identité des jeux. C'est dire que non, la RDC, quand tu joues contre la RDC, c'est que tu vas jouer face à un bloc bas ou quand tu joues contre la RDC, tu vas jouer avec une équipe du jour. Donc on n'a pas encore une identité, on ne s'est pas encore fait une identité. Mais je pense que la Coupe du Monde nous a servi des préparations et dès que d'autres joueurs viendront, on aura une toute autre image. Je salue la belle prestation historique du gardien Lionel Passy qui aura été avec dans tous nos matchs, si je peux le dire. Des arrêts, il sauvait des buts, il ne faisait pas seulement des arrêts, mais il sauvait aussi des buts. Je peux également saluer la prestation individuelle de Yohan Wissa, sans oublier Aaron Wan-Bissaka également. Quand tu joues contre Neto, tu joues contre Nuno Mendes, Luis Diaz, tu joues contre Rashford, Gordon, mais tu n'es pas dribblé même une seule fois dans tous ces matchs-là, c'est vraiment une prestation aussi historique, hein. La raison pour laquelle je disais que tout ce qu'a fait la RDC aura été historique dans cette Coupe du Monde. Mais je n'oublie pas également tous les joueurs qui ont presté et ou tous les joueurs qui ont été convoqués par Sébastien Desarbes, les 26. Donc il y a par exemple Gaël Kakuta qui n'a pas joué, mais qui peut-être a eu un autre rôle dans le vestiaire. Et c'est toujours très important pour la RDC. Donc bravo, félicitations à cette équipe nationale. Déjà, les échéances prochaines, ce sont les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations qui arrivent en septembre prochain. Donc quand je regarde les groupes où on est logé, hier j'en parlais déjà avec Benjamin, je me suis dit, bon, si on ne quitte pas ces groupes avec les maximums des points, ça serait vraiment un échec pour la RDC vu les niveaux qu'on affiche déjà.
Si on ne finit pas premier, disons.
Ouais, si on ne finit pas avec le maximum des points, parce que quand tu as la Sierra Leone, la Guinée équatoriale et l'autre nation, j'oublie le nom, mais la RDC quand même, avec les niveaux qu'on a aujourd'hui, je pense qu'on doit finir avec le maximum des points.
Benjamin, quelles leçons tirées de cette compétition?
Déjà globalement satisfait de la prestation des Léopards durant cette compétition. Et la leçon que moi j'ai retiens, c'est déjà que les Léopards ont plusieurs visages. C'est une équipe capable de s'émouvoir, de se sublimer. C'est une équipe capable également de s'adapter à n'importe quel adversaire, de regarder dans les yeux n'importe quel adversaire, de tutoyer n'importe quel adversaire et de faire mal à n'importe quel adversaire. Ça, c'est les messages que j'y retiens. Parce que d'aucuns, plusieurs détracteurs des Desarbes disaient que voilà, ça passait. Et je me souviens même qu'on avait eu ce débat avec Exocé qui disait que Desarbes ne gagnait pas face aux gros. Desab ne faisait pas des résultats face au groupe, mais voilà, il nous a montré que quel que soit l'adversaire, avec son équipe, il était capable de faire mal, de faire douter tout le monde. Et je pense que c'est un message fort que cette sélection a envoyé au monde entier. Pardon. Désormais, si vous voulez gratter un résultat face à la RDC, vous allez devoir venir les chercher, vous allez charbonner, vous allez souffrir, vous allez travailler. Il n'y a plus des petits matchs face à la RDC, il n'y a plus des résultats garantis face à la RDC, il n'y a plus des réelles différences entre la RDC et toutes les nations. Ce qu'on a vu, en tout cas, que cette équipe savait mettre en difficulté tous les grands. On a joué trois grandes équipes du top 10 et on a fait des résultats relativement positif. Moi, c'est ce que j'y retiens. Et Exaucé a planté les décors, c'est des bons augures pour la suite et nous devons pérenniser tout cela et concrétiser et affirmer notre statut.
Nous reviendrons sur la suite dans peu de temps. Donnons des cotes à certains joueurs. Lionel Mpassi, combien sur 10? 7 sur 10.
Moi, il m'a surpris parce que vous le savez ma position sur les gardiens de but depuis le début de cette compétition.
J'attends ta vidéo.
Moi, j'attendais qu'on y aille avec un gardien en jambe, un gardien en forme, un gardien qui a profité du temps de jouer en club, ce qui n'a pas été le cas pour Lionel Mpassi, mais c'était le cas pour Mathieu Polo. Mais le match que Lionel Mpassi fait face à la Colombie et le match qu'il réédite face à l'Angleterre, franchement, on peut tout dire, on peut ne pas avoir été d'accord avec quelqu'un au départ. Mais si je lui colle un 8 sur 10, c'est parce que si on a existé dans ces deux matchs-là, si on a cru à un moment donné dans ces deux matchs-là, c'est grâce à lui.
Isaka, Amani.
Oui, pour moi, d'abord le meilleur de Léopard, c'est Mpassi. Pour moi, il a 9. Deuxièmement, c'est Bissaka. Bissaka, c'est vrai, je crois que c'était le match qu'on a perdu le deuxième match d'éliminatoire avant le barrage. Mm-hmm. Je me disais mais qu'il était facile à dribbler, mais j'ai vu que c'était juste une circonstance, c'était une erreur de parcours. Mais je l'ai vu quand même défendre contre tous les grands, comme il l'a dit ici. Donc pour moi, Bissaka, c'est le deuxième meilleur joueur de cette Coupe du Monde. Je l'ai vu vraiment bien défendre.
Oui, ça,
c'est vrai, il a mis deux buts.
Mais peut-être qu'il a eu la
pour moi, aussi. Mais pour moi, c'est encore lui qui a gâché notre qualification contre l'Angleterre.
Quand tu mets celui qui a évité les buts premiers,
parce que
c'est lui qui les a mis, tu le mets deuxième.
Oui, parce que pour moi, si Wissa marquait les buts, les deuxièmes buts, on était qualifiés. L'Angleterre était déjà perdue avec les deux, parce que les buts changent les têtes des joueurs. Si vous menez déjà 2-0, l'Angleterre pouvait comprendre chose. Mais quand même, il a fait aussi les autres matchs, c'était correct. Pour moi, c'est le troisième, parce qu'il a raté les buts qui devaient nous qualifier en 16e. Suivi de
Noah Sadiki, Mutusami, Mbuku, Chipenga.
Chipenga, oui. Chipenga, pour moi, c'est... D'ailleurs, si ces garçons avaient la chance d'évoluer dans un bon club, et qu'il est permanent, il serait l'un des meilleurs de l'Afrique. Parce que c'est que moi, je l'ai vu, sa façon de conduire le ballon, sa façon de dribbler, surtout, c'est vrai, il y a beaucoup d'ailiers qui savent dribbler, mais ils ne savent pas tirer comme lui. Et surtout qu'il sait aussi donner des passes. Pour moi, c'est vraiment un garçon sur qui on pourrait compter pour l'avenir de cette équipe nationale.
Merci, Exaucé. Quelle cote? Bon, on ne va pas évaluer tous les joueurs. Ouais. Certains qui vous ont marqué, les flops même de cette compétition. On va rappeler quand même que Bakambu est passé à côté de sa Coupe du Monde, même s'il a joué un rôle prépondérant, nous l'avons vu après cette défaite face à l'Angleterre. C'est le gars qui a appelé tous ses coéquipiers, il a lancé un message fort, il a prié avec ses coéquipiers. Nous avons vu également une vidéo où il échangeait avec le président de la République en demandant à ce que le soutien soit réservé à cette équipe nationale, parce qu'elle avait le moyen de figurer au chapitre de toutes les Coupes du Monde tous les 4 ans.
Voilà, pour moi, je pense que Lionel Mpassi passe en première position. C'est mon gardien préféré, même si Arcade et tous les autres détracteurs de Lionel Mpassi estiment qu'il n'a plus sa place dans cette équipe. Pourtant, moi, je le vois comme gardien titulaire et les plus forts que nous avons actuellement. J'ai jamais
les
vu...
autres, vous ne les avez pas testés. Hein.
Effectivement,
ça,
mais
c'est une affirmation gratuite.
Effectivement,
mais jamais vu Polo avec l'équipe nationale.
Voilà, mais quand tu as Lionel Mpassi qui n'a qui n'a pas une tache noire dans cette sélection, pourquoi tu veux l'enlever juste parce que tu veux l'enlever? Donc Lionel Passy pour moi, c'est le meilleur Congolais. Et le deuxième, c'est Yohann Wissa, tel que je le disais. Quand tu mets quelqu'un qui a évité des buts premiers, normalement, quelqu'un qui les a mis, alors dans les camps adverses, tu les mets deuxième, c'est Yohann Wissa. Troisième position, c'est Bissaka. Et après, je dirais, ça va peut-être vous surprendre, mais Meshack Elia, il a été bon pour moi, parce que deux passes décisives dans un seul match, le match le plus important de la RDC dans cette Coupe du Monde, c'était contre l'Ouzbékistan. Il fait deux passes décisives dès son entrée, donc c'est aussi bon. Et puis après, les Piqué, les Maélé et les autres qui ont participé, c'est presque dans le même panier.
Nous donnons place aux réactions. D'abord, cette réaction de Noah Sadiki. Je suis évidemment un peu triste que cette aventure soit déjà terminée, mais c'est la vie, cela fait aussi partie de mon parcours. Je vais continuer à grandir et à travailler, que ce soit dans les 4 prochaines années ou dès la saison prochaine, afin de devenir la meilleure version de moi-même, a déclaré Noah Sadiki à l'issue de ce match. Axel Toanzembe a dit ceci: aujourd'hui, nous sommes vraiment déçus. Ce n'est pas une question de se dire que nous sommes heureux d'avoir participé. Nous sommes déçus d'avoir perdu un match dans lequel nous aurions dû conserver notre avantage. Par moment, nous étions la meilleure équipe. Nous pouvons encore progresser et inspirer la prochaine génération des joueurs à représenter la sélection nationale. Il y a encore des joueurs éligibles qui peuvent renforcer cette équipe. Je pense que le meilleur est à venir. Nous avons encore une marge de progression, mais nous allons dans la bonne direction. Ce n'est certainement pas la dernière fois que l'on entendra parler de nous. Nous reviendrons encore plus fort, a déclaré Axel Toanzembe après ce match. De son côté, Sébastien Desabre a déclaré ce qui suit: on s'est réunis et je leur ai simplement dit merci. Merci de nous avoir rejoints dans ce projet dès le départ et d'avoir réussi à le concrétiser lors de l'une des plus grandes compétitions mondiales. Même si nous pouvons ressentir un peu de déception au regard de la physionomie du match aujourd'hui, je pense que nous avons pratiqué un très beau football, notamment en première période. C'est ce que je leur ai dit. Je pense que vis-à-vis des supporters et du Congo, nous avions le devoir, en représentant la sélection nationale, de quitter cette compétition en ayant laissé quelque chose au monde entier. Je vous propose de suivre Sébastien Desabre dans la conférence de presse d'après-match. Il a répondu aux questions, donc vous entendrez certaines questions en anglais, mais l'essentiel, c'est juste la suite qui sera réservée en français par Sébastien Desabre.
Hey, Coach, Ali Howarth, Trinity Media. It was obviously a devastating result in the end, despite a brilliant performance from the team. We saw in the, you know, after the final whistle, you all gathered around in that huddle. We saw Cedric giving some really powerful words. We saw Chancel speaking. We saw yourself speaking. I just wanted to know what your words to the players were after that game, and what your words are for, you know, the 116 million Congolese who watched you from around the world and you made smile for, even if it was just for, you know, 80 minutes.
On s'est réunis, j'aurais simplement dit merci. Merci de nous d'avoir cru en ce projet au départ, et puis d'être arrivé à le concrétiser sur une des plus grandes compétitions mondiales. Et même si on peut être un peu déçu par rapport à la physionomie du match aujourd'hui, je pense qu'on a joué un très bon football, notamment en première mi-temps. Donc voilà, c'est ce que je leur ai dit et je pense que par rapport à nos fans et au Congo, on se devait, quand on représente la sélection nationale, de sortir de la compétition en ayant laissé des choses au monde entier. Et je pense que tout le monde a pu voir que le football congolais à un certain niveau et également beaucoup d'état d'esprit, d'organisation, de résilience, ce qui définit aussi très bien le pays.
Bonjour coach, Karim Baldé pour TV5 Monde. Félicitations déjà pour le parcours des Léopards d'une manière générale, et vous parliez d'héritage à l'instant. J'ai deux questions. La première sur le match déjà. Il a manqué peut-être un quart d'heure. Une seule question. Okay. Bon, bah, très bien, je vais aller droit au but alors. Lionel Passy parlait du quart d'heure qui a manqué finalement, le fameux dernier quart d'heure. Qu'est-ce que vous auriez pu éventuellement faire de mieux, ou votre équipe, pour tenir le score face à l'Angleterre?
Je sais pas. Bah, je sais pas. Je sais pas si c'était possible déjà, mais sans doute on a essayé. Hein. On a essayé en donnant de la fraîcheur, en essayant. Aujourd'hui, on est en tant qu'entraîneur. Moi, je suis. J'analyse le football d'abord. Donc, c'est vrai que tactiquement, on a utilisé notre troisième système de jeu de la compétition plutôt bien. Ce sont des systèmes, que ce soit 4-3-3 ou le 3-5-2 ou le 4-4-2 qu'on travaille beaucoup depuis 4 ans. Je trouve que ça a bien fonctionné, notamment sur nos animations offensives en première mi-temps. Après, faut reconnaître aussi qu'on a concédé des situations, qu'on a fait douter l'Angleterre et qu'ils ont dû se remettre à sans doute l'un des meilleurs attaquants du monde pour pouvoir marquer. Et c'est ça, quand on se confronte à de grandes nations comme ça, c'est souvent le cas. Donc nous, on a fait ce qu'on devait faire. Je pense qu'on n'a pas été loin de faire 100% de ce qu'on peut faire tout au long de la compétition, et pour nous c'est déjà une première victoire. Et après ça montre aussi à certains jeunes joueurs qu'on a qu'il y a encore un parcours, qu'ils sont bien lancés, ils ont pris beaucoup d'expérience, tout le monde, c'était leur première Coupe du Monde, staff et puis joueurs aussi, et c'est pour ça qu'il faut valoriser leur parcours et féliciter mes joueurs.
Hello, I've got a question in English. John Murray, BBC. Now that you've taken on England and played against them and seen them in the flesh, where do you think they sit among the leading contenders at this World Cup from what you've seen?
Je sais pas, j'ai l'habitude de me concentrer sur mon équipe. On a vu que on pouvait les mettre en difficulté, mais qu'ils ont su réagir aussi. C'est la capacité aussi des grandes équipes. Donc le résultat est celui qu'il est aujourd'hui. Donc il faut féliciter l'adversaire, lui souhaiter bonne chance pour la suite de la compétition. Et après, ce qui leur a manqué ou ce qu'ils ont eu de bien, je pense que leur staff va l'analyser.
Oui. Bonsoir, coach. Gary Well ici avec la RTNC. Déjà, félicitations pour le parcours, puisque personne ne nous a donné la chance. Mais vous avez déclaré avant le match plutôt que nous n'avions rien à perdre. Et voyant la performance de votre équipe aujourd'hui, est-ce que vous êtes plus fier que déçu?
Ouais, on est déçu de quitter la compétition comme la Coupe du Monde. C'est quelque chose d'extraordinaire. Donc on est d'abord déçu. Et comme je l'ai dit, on a fait, je pense, ce qu'on devait faire dans cette Coupe du Monde en marquant 5 buts, malheureusement en en prenant 5 également. Mais globalement, on a quand même joué quatre équipes qui étaient nettement au-dessus de nous au classement FIFA, et sur lequel on a quand même bien rivalisé.
Hello, Michael Cox for The Athletic. Question in English. Thomas Tuchel sat there yesterday and he said he thought you would play 5 at the back and play a lot on the counter-attack. You actually played 4 at the back, started with some really good passing football. Why did you decide to play that way? Was there any matches you saw that kind of gave you inspiration to play with that system? Thank you.
Oui, on voulait mettre de la largeur quand on avait le ballon. C'est une des raisons pour lesquelles on a joué à 4 avec des milieux excentrés au long de ligne. C'était pour avoir de l'espace. On savait qu'on avait rajouté un milieu très technique au milieu, donc on allait avoir de la possession. C'est une des raisons. L'autre raison aussi, c'était de fermer un peu mieux le milieu et de casser la relation avec Anderson, qui est quand même très influent à la construction du jeu de l'Angleterre. Donc on avait décidé que notre attaquant défendait sur lui, un peu comme avait fait le Ghana avec Jordan Ayew. Donc voilà, c'était un choix comme ça.
Il n'y a plus de questions. Merci, mais nous annonçons que
Le coach a perdu son père. Donc, mes sincères condoléances.
Merci. Yeah,
okay. Thank you very much for joining us today.
Sincères condoléances donc au coach qui a perdu son père. Nous l'avions donc appris également dans la foulée. Et l'international congolais Gaël Kakuta a annoncé dimanche mettre un terme à sa carrière de footballeur au terme d'un parcours de près de 2 décennies qu'il a conduit de Chelsea à la sélection de la RDC en passant par l'Angleterre, la France, les Pays-Bas, l'Espagne, l'Italie, la Chine, l'Iran, la Turquie et la Grèce. Je cite, il arrive à un moment où il faut savoir écouter le temps et accepter que chaque saison a une fin. Aujourd'hui, c'est avec beaucoup d'humilité que j'annonce la fin de ma carrière de footballeur, a écrit le milieu offensif de 35 ans dans un message publié sur son compte Instagram. Qu'est-ce qu'il faut changer pour la suite, Arcade? Quels sont les éléments à intégrer dans cette équipe de la RDC? Quels sont les secteurs à renforcer? Je commence, permettez-moi, Arcade, ouais. Déjà par le flanc gauche de la défense. Je crois quand même que c'est un secteur à renforcer. Exactement. Le flanc de Masuaku et consort.
Masuaku, je crois, il a un remplaçant valable aujourd'hui. On a quand même quelqu'un qui est titulaire indiscutable à Fribourg et qui a déclaré récemment que la RDC ne l'avait jamais contacté. Donc je pense que la tâche revient
maintenant. Parlez de Makengo.
Je parle de Makengo, exactement. La tâche revient maintenant à les candidats de Benji qui a remporté les élections. Véro. D'aller avec son équipe, d'aller vers Makengo, parce que je crois que c'est quelqu'un qui peut nous faire énormément du bien. Parce que vous avez parlé de Masuaku, c'est un trentenaire. Son âge joue également, il a 31 ans, ouais, ouais. KMB, donc je pense que ça vaut la peine qu'on les remplace. Dans la défense centrale, il y a également Mbemba, qui ne va plus peut-être être le même Mbemba dans quelques mois. On l'a vu même dans certains matchs, Tonzembe a beaucoup couvert Mbemba dans plusieurs actions. Mais on peut compter, je crois, sur Kapwadi, on peut compter sur Willy Kabwa, là, de Villarreal, qui arrive également très, très bientôt, probablement. Et voilà, au côté droit, on ne se pose pas de questions. Aaron, je pense qu'on peut encore compter sur lui pendant...
Mais il faut penser à sa doublure aussi.
À sa doublure également, c'est très important, parce qu'on a vu qu'avec Kaloulou, ça ne rassure pas. C'est quelqu'un qui a soif de sa carrière, si vous permettez les termes. Mais je crois qu'il faut... Ça serait vraiment très important de réfléchir sur sa doublure. Mais je pense que lui qui joue la deuxième division anglaise...
Ngiaka.
Jérémy Ngiaka. Je pense qu'il est
à Watford, je crois.
À Watford, oui. Il joue avec Edo Kayembe. Je pense qu'il est quand même pas mal et il peut être la doublure de Aaron Wan-Bissaka, qui demeure pour moi le meilleur joueur de la RDC lors de cette Coupe du Monde. Parce que dans mon top 3, c'est lui que j'aimais avant. Et puis ensuite, viendra Mbassi et le buteur.
Ah, vous avez oublié le poste de gardien, on laisse comme ça? Parce que on n'a jamais été parmi vos préférés.
S'il trouve un club et s'il arrive à s'imposer comme titulaire dans son club.
Cette fois, il va s'imposer.
Oui, bon, parce qu'on l'a vu avec tout ce qui s'est passé dans des médias, je pense qu'on y revenait d'ailleurs avec vous en coulisses, on a vu que tout le monde a parlé de la performance des passés. Et je pense que ça peut être un aspect qui peut l'aider, pour trouver un club, même si, bien sûr, le facteur âge ne tourne pas en sa faveur. Comme le disait Xossé, il a déjà 31 ans. Je pense que ça ne va pas lui faciliter la tâche, mais au moins pour cette saison qui arrive...
Également... Il est dans les informations de transfert.
Ouais, il est.
Visiblement, il pourrait rebondir dans un top club.
Dans un top club. Et est-ce qu'il sera titulaire indiscutable directement? Je ne sais pas. J'ai d'autres fois qu'il sera titulaire indiscutable. Mais personnellement, je crois en passer s'il trouve un club. Parce qu'il nous a montré qu'il n'est pas aussi mauvais que ça. Il a aujourd'hui l'expérience avec l'équipe nationale. Il est là depuis un moment. Et c'est en ce sens que moi, je pense qu'il peut encore avoir cette chance d'être là.
Le parce grand chantier, milieu de terrain.
Au milieu de terrain, oui. On sait que.
Il faut penser à la relève ou le gardien.
Jordi Mukio, il arrive. On rappelle qu'il évolue comme sentinelle côté Ajax d'Amsterdam.
Tout autant pour Warren Bondo.
Tout autant pour Warren Bondo également qui a choisi la RDC depuis un moment. Et.
On n'a jamais eu de milieu. Meneur de jeu,
un vrai meneur.
Remplacer Trezor Poutou.
Pour remplacer Poutou. Je pense que si Mayulu arrivait finalement,
ça serait une baraka pour la RDC. Et je crois personnellement que, je crois, je pense que ça peut être possible. Il y a l'autre de Chelsea qu'on a oublié, qui Jérémy Lavia, le Belge, qui n'a jamais été sélectionné par la Belgique, qui est éligible jusqu'à avec la RDC. Et je pense qu'il fait également, qu'il peut également nous faire énormément
d'humains. Exaucer à l'attaque, qu'est-ce qu'on peut faire?
À l'attaque, c'est vrai, on a senti que sur depuis la période des sabres, on n'a pas en tout cas vu cet attaquant, surtout en pointe de l'attaque, on n'a pas trouvé ces tueurs, ces céréales, buteurs qui, avec lui, on peut séduire. Ouais, au moins, s'il n'arrive pas à marquer, il fera au moins un grand match en tant que attaquant des pointes. On a essayé avec SND, on a essayé avec Banza, mais ça ne marchait toujours pas. Des sabres, il s'est contenté des rester avec Cédric Bakambu, avec Maël et comme doublure. Mais après, je pense, après la Coupe du Monde, on va réfléchir et en toute logique, Cédric Bakambu ne doit plus être titulaire dans cette équipe. Et justement, si on arrive à trouver cette pièce rare, disons par exemple Pouloulou, s'il arrive dans cette sélection, je pense même avec son championnat qui n'est pas de très haut niveau, il peut nous faire énormément de bien. Et puis après, sur les ailes, il y a des joueurs préférés de Benjamin, les Samuel Bangoula, les Diane Bakwa. Donc s'ils arrivent aussi, ils peuvent nous faire aussi énormément de bien. Avec
on garde Tipenga pour l'avenir.
Exactement. L'avenir,
voilà, on se passe de Meshak ou comment? Et Théo Bongonda?
Pour moi, ils vont rester dans le bus des Sabres, dans les gros bus des Sabres, mais sans être encore régulier dans cette équipe. C'est vrai, on peut avoir des blessures et on va faire recours à Meshak par exemple ou Maëlle par exemple, mais ceux qu'on doit garder au niveau de l'attaque, je crois beaucoup Chipenga. Pour moi, ils peuvent encore rester pendant longtemps dans cette sélection parce que les nouveaux, ils ne viendront pas tous au même moment. Il y aura certains qui vont peut-être bouder les éliminatoires pour venir lors de la phase finale de la CAN. Donc voilà, je me dis qu'on va d'abord y aller progressivement et essayer.
Ils ne vont plus bouder, on ne boude pas.
Essayer de convaincre tous ces joueurs-là qui ont envie ou même ceux qui n'en ont pas. De venir jouer dans cette sélection.
Benjamin, quel changement apporter à cette équipe? On change le staff technique, on le renforce, on change des sabres. Quel joueur sortir? Quel élément, oiseau rare, à apporter en plus dans cette sélection?
Non, en tout cas, pour ce qui est de Sébastien Desabre, surtout pas. Il avait annoncé à la sortie de sa liste.
Certains proposaient le retour de Florent Ibengue.
Non, ça c'est une bêtise.
C'est dans l'alphabet sportif d'elle.
Oui, ça c'est une bêtise. Je pense que
ils ont été payés pour faire ça.
Oui, ils sont financés pour faire cette propagande, mais surtout pas de ça. Il nous a annoncé déjà à la sortie de sa liste pour la Coupe du Monde que après cette Coupe du Monde justement, il allait y avoir.
Il y aura une après Coupe.
Oui, il y aura
un nouveau projet
avec des nouveaux joueurs. Attendons voir ce
et que des nouveaux objectifs. Serait à ce stade l'objectif de la RDC.
Exactement, c'est ça qu'il faut maintenant fixer avec son nouveau contrat, ce qu'il devait être là jusqu'à cette Coupe du Monde. Oui, il l'a prolongé officieusement. Il lui a dit qu'il allait être là encore longtemps. mais c'est sûr, c'est le chouchou du président et il a des très bonnes relations avec le ministre des Sports. Je ne sais pas encore comment ça va se passer avec Véran, mais il est déjà avec ses deux autorités. Ça passe bien. Donc, et pour moi, même sportivement, je pense que Sébastien Desabre est toujours l'homme de la situation. Attendons voir ce qui va se passer pendant ces éliminatoires. Attendons voir avec les nouveaux venus ce que cela va produire. Qui a augmenté ceux qui ont parlé avant moi, une tuile de se répéter, ont projeté les nouveaux venus. Vous avez juste semblé oublier Anthony Milambo de Brentford. Pour moi, qui est l'héritier valable au poste de numéro 8, ça, c'est un joueur très beau à avoir joué. C'est un joueur qui va faire énormément de bien à cette sélection. Et je pense que si l'on pouvait ramener dans une sélection de la RDC, Jurti Mioko, Mokyo, pardon, Anthony Milambo, Sini Mayulu, Warren Bondo, cette équipe sera injouable. Donc attendons voir ce que cela va produire en attaque. On a déjà cité des noms, Samuel Bangoula, qui est pour moi mon chouchou, mon préféré, que j'attends des pieds fermes. L'autre là qui joue en PL, qui joue en Premier League.
Et
oui. Dylan Bakwa, voilà. Ce sont là les attaquants que nous attendons pour les prochaines. Ouais. Il y a également Mavididi qui est toujours cité, Stéphie Mavididi. Bref, c'est.
La CAN, c'est en juin, donc on a encore une année.
Oui, c'est une équipe des Léopards qui viendra avec de toutes autres ambitions à la CAN.
Il y a Kalimundo qu'on a sans
doute. Kalimundo qui évolue à Eintracht Francfort, jouant en Bundesliga. Au-delà de tous ces ajustements à Mani, quelle devrait être la plus-value de la participation de la République démocratique du Congo à la Coupe du Monde? Parce que nous rappelons qu'on va approcher des millions de la part de la FIFA, 27,5 millions de dollars. Comment pérenniser cette participation de la République démocratique du Congo, ou disons comment le bonifier davantage à la Coupe du Monde?
Exactement, il faut continuer à faire la même chose, c'est-à-dire à impressionner, à donner une autre image de ce qu'on connaissait de cette équipe, parce que déjà après la Coupe du Monde, certes que ça va changer. Ça va changer, étant entendu que, vous savez, même ces joueurs que nous venons de citer, que les amis venaient de citer ici, avant de venir, se posent la question, est-ce que je ne viens pas pour me faire ridiculiser? Je viens dans cette équipe pour aller jusqu'où? Mais déjà, on a senti qu'ils pourraient venir pour aussi évoluer, peut-être aller trembler dans la compétition.
C'est déjà des garanties derrière.
Ouais, c'est ça, oui. Mayulu, tu vois, par exemple, moi, je sais, c'est vrai, on peut changer, on peut amener de nouveau, mais ils ne font pas perdre les fondamentaux. Et dans une équipe, lorsqu'on veut améliorer, on cherche d'abord les besoins de l'équipe, en gardant les nécessaires. Parce que pour nous, on a vu qu'on avait des limites d'abord au niveau du véritable meneur, numéro 10, et au numéro 9. Numéro 9, pourquoi? Parce que celui qui était pressenti comme titulaire a été contesté, c'est Bakambu. Oui, même c'est pourquoi d'ailleurs le dernier match, c'est notre joueur qui joue là-bas, qui est là. Et donc, pour moi, il faut chercher peut-être deux numéros 9, parce que déjà si... Même l'air titulaire est contesté. Que dire maintenant de ceux qui sont sur le banc? Parce que si déjà Bakambu, qui est pressenti ou qui a toujours été titulaire, ne sait pas jouer, qu'est-ce qu'on va dire de Banza, de Sende, et peut-être Mayel, bon, tout ça. Donc pour moi, il faut chercher d'abord un véritable numéro 10. Et pour moi, comme tout le monde l'a dit ici, c'est ces garçons de PSG, Mayulu, qui pouvaient nous aider à ces postes. Et d'autres peuvent venir, mais d'abord, ça, c'est vraiment un besoin. Et pour ça, si j'étais vraiment le président de la fédération, je pourrais faire ça un véritable chantier. En tout cas, se mettre jusqu'à ce qu'on trouve un véritable numéro 10.
Oui, pour revenir à votre question des acquis financiers, vous avez déjà dit la somme, nous allons percevoir une somme de 27,5 millions. Et Boudimbo a déjà annoncé que 10% de cet argent va revenir aux joueurs qui se sont battus pour cette Coupe du Monde, qui sont allés jusque-là. Donc, ils vont percevoir 10% de cette somme. Les restes vont aller à la construction des FECOFA Academy. C'est pas quelque chose comme ça. Ils vont créer un centre comme Clairefontaine. On va appeler ça FECOFA Academy, je pense. Et les restes, il a dit que ça allait être injecté dans les championnats féminins, championnats des jeunes et la Lina Foot.
Voilà. Donc, nous attendons vraiment des projets de cette envergure pour bonifier davantage cette participation de la RDC. Envisager, par exemple, peut-être la construction d'un stade, la réhabilitation du stade des Martyrs.
Oui, les stades des Martyrs faisaient partie des...
Injecter beaucoup des moyens dans notre championnat. Parce que, bon, c'est bien bon, on a évolué avec les internationaux, mais à la prochaine, on voudrait qu'il y ait une perle en provenance de la Ligue 1 Illico Cash, ouais, dans l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. Et changer de paradigme, au lieu d'investir des millions de dollars dans visite DRC au FC Barcelone, les investir plutôt à la base en améliorant notre football. Nous allons finir cette émission avec les rendez-vous d'aujourd'hui à 22h. Il y aura un choc de titans entre le Brésil et la Norvège, et le Mexique à 2h en découdra avec l'Angleterre en temps normal. Ce serait la RDC. Bon, pas temps normal, mais on aimerait que ce soit la RDC. Malheureusement, la RDC a été écartée. Les Africains sortent l'un après l'autre. Nous saluons quand même le beau parcours du Maroc qui a battu le Canada hier sur le score de 3-0. Donc, nous restons à ce stade avec le Maroc et l'Égypte. L'Égypte qui va affronter l'Argentine le mardi à 18h00. Bref, on attend voir la suite le Maroc en découdra avec la France en quart de finale. Ça sera le jeudi à 22h, heure de Bukavu. Voilà, est-ce que Exaucé, on peut attendre voir une fois de plus un Africain en demi-finale?
Ouais, pourquoi pas. Je compte vraiment sur
l'Égypte, Argentine, ouais, la France avec le Maroc.
Effectivement, je compte sur les équipes qui sont restées, notamment le Maroc qui nous propose un très bon football.
Et même l'Égypte.
Ouais, effectivement, je vais en parler. Mais le Maroc, c'est l'équipe africaine qui n'a pas peut-être reculé face aux adversaires européens. C'est l'équipe qui jouait décomplexée. Hier, c'est vrai, ça a été compliqué en début de match, mais ils ont quand même réussi à gagner sur ces scores. C'est vrai, ils ont perdu leur buteur Saïbari sur blessure, mais il y a quand même des génies hein, dans cette équipe. J'ai vu Arkad s'emballer après match et mettre Alédine Ounahi dans les débats des meilleurs milieux de terrain du monde. C'est vrai, c'est
un club, une équipe nationale.
Effectivement,
pas un club.
C'est vraiment un joueur exceptionnel avec des boîtes qui sont également autour de lui et surtout Sofiane Raimi. C'est un joueur qui est. J'ai vu ses débuts en professionnel. C'est depuis la CAN 2021, remportée d'ailleurs par le Maroc. Je l'ai vu meilleur joueur, meilleur buteur de cette édition-là. Et puis après, il a été amené dans l'équipe senior. Et aujourd'hui, les voir avec, je crois, 3 buts dans cette Coupe du Monde, c'est vraiment exceptionnel. Et je suis fier de lui. De l'autre côté, pour conclure, je pense que le Maroc va faire un grand match contre la France. Certes, ils peuvent être éliminés, mais ils vont faire un grand match. Ça a été la rencontre des quarts de finale, plutôt des demi-finales.
Des demi-finales en 2022.
L'édition passée, où la France a pris le dessus sur le Maroc. Mais cette saison,
cette année... Les Marocains ont la possibilité de prendre leur revanche.
Ouais, surtout avec une équipe qui s'est améliorée positivement surtout. Et je pense que, aussi pour l'Égypte, au vu du match qu'a présenté les Cap Verts contre l'Argentine, le Cap Vert qui a fait douter l'Argentine jusqu'à la dernière seconde. Je pense que l'Égypte aussi peut faire quelque chose avec Mohamed Salah. Achour également, un joueur qui joue dans le championnat local égyptien. Il joue à Al Ahly, mais aujourd'hui c'est l'un des meilleurs Égyptiens dans cette Coupe du Monde. Je pense que l'Égypte aussi fera un grand match.
Merci beaucoup Arkad. Au vu de ce que vous voyez, nous sommes certes à l'étape de quart de finale. Nous entamons l'étape de quart de finale. Laquelle des équipes vous semble plus nantie? L'Égypte, l'Argentine, la France, la Norvège, l'Espagne ou le Portugal?
L'idée, parce que moi je croyais déjà à l'Égypte, quand peut-être personne ne croyait à cette équipe égyptienne, et moi je me disais qu'ils ont les atouts, l'expérience, le vécu, presque tout pour aller loin dans cette compétition. Mais malheureusement, quand vous êtes face à l'Argentine de Lionel Messi, qui sont capables de trouver la solution dans n'importe quelle circonstance, on l'a vu face au Cap Vert, qui sont venus jouer les tout pour les tout, mais ça n'a pas empêché à l'Argentine de venir par trouver une faille, avant même la séance fatidique des tirs au but. Malheureusement pour l'Égypte, parce qu'ils vont quand même jouer l'Argentine. Et l'Argentine a un joueur capable de décider sur les destins des matchs. C'est en ce sens que moi je pense que ça sera compliqué pour l'Égypte. Et pour les Maroc, malheureusement, ils tombent aussi sur les finalistes malheureux de la dernière édition et carrément l'une des équipes complètes de cette compétition qui est la France.
Merci. Donc, malheur au Maroc. Quand même.
Malheur presque à toutes les équipes africaines qui restent en lice.
Voilà, Amani.
Oui, Dessy, parce que pour moi, je crois qu'on n'aura pas malheureusement d'équipe en demi-finale. Parce que pour moi, c'est lui, l'équipe qui pouvait être là sur le Maroc. Malheureusement, c'est contre la France. La France, que j'ai vu lors de l'édition passée battre facilement le Maroc 2-0 avec ses buts de Fernandes et Colomani. Elle a ses 5 minutes, 79 minutes. Mais moi, je crois que c'est encore une France qui est vraiment à très haut niveau. Je crois que malheureusement, on va s'arrêter là au niveau des quarts de finale. Parce que c'est vrai, il a parlé de l'Égypte, mais c'est contre quand même l'Argentine qui surprend toujours, même lorsque
qui a subi face au Cap Vert.
Oui, subi face au Cap Vert, mais au finish ils ont gagné. Pour moi, je crois on va se contenter du fait que après la phase de groupe, il y a eu beaucoup d'équipes africaines en 16e.
C'est
peut-être ça les positifs, mais en tout cas à ce niveau, je ne vois pas le Maroc gagner la France ou éliminer la France.
Benjamin, merci beaucoup. L'Espagne retrouve le Portugal de Cristiano Ronaldo.
Oui, un très bon match.
Les fans du Real face aux fans du Barça. demain se retrouve à partir de 21h.
Exactement. Oui, les tendances sont déjà dégagées. Tous les supporters du Real seront derrière le Portugal et tout autant pour les supporters des Barça qui seront derrière l'Espagne. Mais quoi qu'il en soit, ça sera un très bon match. On va assister au premier grand choc pour moi. Ça sera un premier grand choc dans ces mondiales. Et tout va se jouer au milieu de terrain. L'équipe qui saura gérer les milieux de terrain va l'emporter. Et j'ai hâte de suivre ces matchs.
Merci beaucoup, Badou Hassan. À partir de Boulou 6, précise, nous sommes arrivés à notre niveau. Et le banc de l'Angleterre était tellement riche. C'est ce que dit que Badou Hassan à travers son SMS. Merci pour vous. Et pour votre intérêt, donc, très chers auditeurs. Ainsi prend fin l'émission Sport pour tous de ce jour, ce dimanche 5 juillet 2026. Merci infiniment à vous tous de nous avoir suivis. Joseph Tizungu a assuré la mise en œuvre. Au revoir. Vraiment, c'est une grande équipe.